Excellent! Mardi, 4 novembre au matin. J'espère que vous passez une merveilleuse journée jusqu'à maintenant. Sous les nuages à Québec, pas mal plus que sous le soleil. Quoi qu'on nous dit, qu'il, par endroit, peut y avoir des éclaircies. C'est 7 degrés. Aujourd'hui, c'est pas mal le maximum qu'on attend. D'ailleurs, avec 40 % de possibilités d'averse. Demain, 5 degrés avec de la pluie. Jeudi, c'est 4 degrés alternance soleil-nuage. Vendredi, 1 degré avec de la neige intermittente. Samedi, alternance soleil-nuage, 5 degrés. Et dimanche, 60 % de possibilité d'averse de neige. Samedi, ça va être pas pire, ça, pour la finale du Rouge et Or face au Carabin, avec un tailgate là, le matin où on sera la gang de boulevard. Fait que soyez là. À date, la météo qui s'enligne vraisemblablement pour être de notre bord. Fait que bonne nouvelle. Sur les routes, s'il y a quoi que ce soit, 418-971-1021. Et pour l'instant, ça semble assez tough là, sur l'accès. Sur le pont Pierre-Laporte, direction nord, il y aurait un accident. Fait que ralentissement à prévoir là, au moment où on se parle. C'est spécial ce qui s'est passé dans la dernière heure en politique provinciale, pour ne pas dire très spécial. Ce matin, il y a la députée de la Coalition Avenir Québec, Isabelle Poulet, qui a callé une conférence de presse pour faire le point sur son avenir. Isabelle Poulet, qui est une députée dont vous avez potentiellement jamais entendu le nom, ce qu'on appelle une députée d'arrière-ban, députée élue dans le coin de la rive sud de Montréal, était auparavant, de ce que j'ai compris de mes recherches rapides, là, élu municipal du côté de Sainte-Julie. Et là, c'est dans la circonscription de Laporte qu'elle est élue. Et là, call une conférence de presse pour faire le point sur son avenir. Puis évidemment, on comprend vite ce qui va se passer. Isabelle Poulet va quitter la Coalition Avenir Québec. Est-ce qu'elle va laisser son siège vacant ou si elle va siéger comme indépendant? Ça, on n'avait pas vraiment l'info encore. Quoique, ce qui circulait, c'est qu'elle allait siéger comme députée indépendante. Et là, je m'installe à 9h30 pour écouter la conférence de presse de Mme Poulet. Pour vous sortir l'extrait où elle dit: je quitte la Coalition Avenir Québec et je siégerai maintenant comme députée indépendante. Et là, peut-être parler de la loi 2 qui fait pas l'affaire de la population, puis dire qu'elle n'était pas en faveur, puis là, parler du fait que ça va pas bien pour la CAQ, puis que blablabla, blablabla. Ça, c'est ce qui devait se passer à 9h30 ce matin. Puis comme je vous dis, quand je m'installe pour entendre les propos de Mme Poulet, puis vous sortir ça, puis vous faire entendre ça, bien, je vois que la conférence de presse a été annulée. Fait qu'en l'espace de quoi, à peu près une heure, il y a eu conférence de presse de Calé, et il n'y a pas eu le temps d'avoir la conférence de presse qu'on l'a annulée. Puis là, je me demandais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je fais mes petites recherches, et je tombe sur un texte de Tommy Chouinard, de La Presse, où on peut lire: or, des jeux de coulisses ont mené à l'annulation de sa conférence de presse. Elle a accepté avec François Legault au cours de la journée de mardi un entretien. Sa sortie médiatique pourrait survenir plus tard ou ne pas avoir lieu du tout selon l'issue des échanges. Ce que ça veut dire, c'est que Mme Poulet avait l'intention à 9h30 ce matin de dire « je quitte la coalition Avenir Québec », que François Legault l'a supplié d'avoir une rencontre avec elle, puis que selon comment cette rencontre-là se déroule, Isabelle Poulet pourrait finalement demeurer au sein de la coalition Avenir Québec. C'est-tu moi ou ça fait brochet d'eau douce en Simonac? Là, ce qui sort, c'est qu'elle réfléchit à quitter la CAQ. Je viens d'avoir une notification de Radio-Canada là-dessus. Mais elle allait annoncer, de ce que je comprends, de ce qu'on comprend, à 9h30, qu'elle allait quitter. Et là, en panique, François Legault l'a appelé. Puis non, Isabelle, tu peux pas nous faire ça. Laisse-nous une dernière chance. Et là, ce qu'on nous dit dans la presse, mot pour mot, c'est que sa sortie médiatique pourrait survenir plus tard ou ne pas avoir lieu du tout, selon l'issue des échanges. Elle doit rencontrer cet après-midi François Legault. Puis c'est intéressant parce que la presse, c'est pas la presse, c'est le Journal de Québec, nous dit que Mme Poulet aurait été approchée par le Parti libéral du Québec à la fin du mois d'août. Intéressant. Intéressant. C'est... Ça fait brocher, c'est l'expression que j'ai envie d'utiliser. Dans un contexte où on le sait, ça va pas bien à Coalition Avenir Québec. Puis le journal nous parlait ce matin du fait que c'est 9 députés là, qui ont pris la parole vendredi quand on a fait un caucus spécial des députés de la CAQ après le départ de Lionel Carman. 9 députés qui ont pris la parole pour faire valoir leur mécontentement par rapport au fait que Christian Dubé était absent de ce caucus spécial-là. Puis la porte-parole de Christian Dubé dit qu'il y avait d'autres engagements, qu'il n'avait pas besoin d'être là, mais ce que disent des sources au journal, c'est qu'il y avait énormément de grogne, que certains étaient furieux. Il y a des élus qui continuent quand même de défendre M. Dubé, un qui dit « Christian, c'est le député le plus disponible, il est toujours prêt à nous informer, même si son ministère est le plus gros, son absence qui est un détail. » Un autre qui dit « Je comprends facilement que Christian Dubé était absent tenu de sa grande disponibilité médiatique. J'ai tout en main pour bien faire mon travail. Je suis bien soutenu par le cabinet du ministre de la Santé. » Mais, hey, j'en reviens pas. De caler la conférence de presse pour faire le point sur ton avenir politique, puis que François Legault réussisse à te convaincre de pas faire ton annonce que vous allez vous jaser au courant de l'après-midi, je pense que c'est quasiment pire pour la CAQ que si on l'avait laissé partir. Puis siéger comme indépendante, ça aurait fait des vagues. Mais là, c'est parce que ça fait amateur, c'est un méchant temps. Puis autant pour Mme Poulet que pour la CAQ, là. Elle qui colle qu'elle va quitter, en fait, elle l'a pas dit, là, faire le point sur son avenir politique, on comprend ce que ça veut dire. Puis qu'il fait pas finalement, qu'est-ce qu'il va se dire dans cette rencontre-là? Est-ce que François Legault, j'allais dire, va y promettre quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez qu'il promette? Ils auront tous plus de job aux prochaines élections. J'ai hâte à cet après-midi d'avoir ce qui va sortir de cette rencontre-là entre Mme Poulet et M. Legault. Puis, d'un côté, j'espère que demain matin, on va bel et bien finalement avoir une conférence de presse de madame qui va annoncer que, en effet, elle va quitter la coalition Avenir Québec parce que ça fait tellement amateur. Puis, comme je dis, je pense vraiment que pour tout le monde, ça aurait été mieux de juste laisser partir Isabelle Poulet. Puis là ça fait désespérer du côté de la CAQ. Je sais pas c'est quoi le message qui est lancé par Isabelle Poulet avec cette manœuvre-là. Je sais pas ce que vous en pensez. 88-971-101 par texto. On a Sylvain qui dit « Wow, c'est ça qu'on appelle une backbencher, c'est amateur ça. » Ben c'est sûr qu'on est passé de pas avoir entendu son nom en à peu près 4 ans. Ce matin, ben c'est la grosse nouvelle. Je sais pas si c'est pour... pour le meilleur ou pour le pire, pour elle, là, à date, ça ressemble plus à du pire, mais regarde, peut-être qu'elle va rencontrer François Legault par, entre guillemets, respect, puis qu'elle va lui dire, ben, moi, peu importe ce que tu me dis, je vais quitter, là. Mais ce que dit la presse, mot pour mot, sa sortie médiatique pourrait survenir plus tard ou ne pas avoir lieu du tout selon l'issue des échanges, donc entre Isabelle Poulet et François Legault. C'est spécial, c'est un drôle de revirement de situation, ça, ce matin. Moi qui m'attendais à entrer en onde avec un petit extrait d'Isabelle Poulet qui dit « Je quitte la coalition Avenir Québec et je siégerai comme indépendante. » Puis là, finalement, ben tout ce que j'ai, c'est de l'incompréhension par rapport à ce qui se passe. Puis j'ai hâte qu'on sache. Il y a Joël qui dit Legault doit lui demander d'attendre une semaine ou deux puisque passé, il y a une démission. Parce que la semaine passée, il y a une démission. Mais en même temps, Joël, comme je dis, ce serait vraiment mieux d'attendre une semaine ou deux. Pour moi, ça change absolument rien. Puis là, ce que ça fait, mettons qu'après ça, elle démissionne dans une semaine ou deux, ça va avoir été dans l'actualité deux fois plutôt qu'une. Si elle avait démissionné à matin, comme elle prévoyait visiblement le faire, ben là, c'est dans l'actualité à matin, puis après ça, ben, on n'en parle plus. Là, c'est dans l'actualité à matin, puis que François Legault sonne désespéré, de dire « Hey, s'il te plaît, Isabelle, quitte pas, reste avec nous ». Puis qu'après ça, il y a une autre couche, une autre nouvelle que finalement, elle quitte après ça. Il n'y a personne qui est gagnant dans tout ça. Bref, on va suivre ça dans les prochaines heures, mais c'est cet après-midi qu'aura lieu la rencontre entre Isabelle Poulet et François Legault. Pensais pas dire ce nom-là aussi souvent à matin, un nom que j'avais jamais prononcé, Isabelle Poulet, dans les quatre dernières années. Sinon, dans les autres nouvelles, là, tant qu'à être là-dedans avant d'avoir notre premier invité du show, hier, on s'est parlé du gouvernement du Québec. De l'entreprise, de la multinationale Glencore qui songerait à fermer la fonderie Horn à Rouyn-Noranda, ben aujourd'hui, ce qu'on apprend, c'est que le gouvernement du Québec était au courant des menaces de fermeture depuis au moins deux semaines. Ces infos du journal là, qui nous dit que le ministre délégué au développement économique régional, Éric Girard, et son équipe sont même déplacés en Abitibi le 23 octobre avec l'objectif spécifique de rencontrer la direction. Le cabinet du ministre qui a confirmé qu'une rencontre avait eu lieu sans vouloir en préciser la nature, ne parlant que d'un premier contact axé sur l'écoute. Le nouveau maire de Rouyn-Noranda, Gilles Chapadeau, qui dit avoir été informé il y a quelques jours qu'un plat de fermeture avait bel et bien été commandé par Glencore, alors que pour l'instant, l'entreprise continue de tout nier. La fermeture de la fonderie Horn qui coûterait l'emploi d'au moins 1000 personnes, dont 650 à Rouyn-Noranda. Glencore qui refuse d'investir d'importantes sommes pour la modernisation de la fonderie pour des enjeux environnementaux. Fait que là, ce qu'on se demande, c'est est-ce que c'est une game pour aller chercher des subventions en se disant jamais le gouvernement du Québec va nous laisser faire mal économiquement comme ça à une ville. C'est à suivre. C'est un jour de premier budget pour l'administration Mark Carney au fédéral. On attend, oui, bien sûr, des compressions. Mais il y a d'autres éléments aussi. Là, on va surveiller l'ampleur du déficit qui pourrait frôler les 100 milliards de dollars. Selon des infos obtenues par la presse, la mesure phare qui sera la création d'un fonds de 5 milliards de dollars pour soutenir la construction d'hôpitaux, de cliniques et d'infrastructures de santé. Les provinces et territoires qui pourront puiser dans ce fonds-là à condition d'y investir une somme équivalente. L'initiative qui s'inscrit dans un nouveau programme d'infrastructures locales, bâtir des communautés fortes. Le budget qui doit également dévoiler des mesures visant à réduire la dépendance économique du Canada envers les États-Unis. Ottawa qui souhaite diversifier ses marchés d'exportation. Donc, j'ai hâte de voir dans le concret là, quelle forme ça va prendre. Le gouvernement qui s'apprête aussi à réduire ou restructurer le programme de plantation de 2 milliards d'arbres qui avait été annoncé en 2020 par Justin Trudeau. Un programme de 3,2 milliards pour financer des projets de plantation d'arbres. L'objectif, c'était 2 milliards d'arbres plantés d'ici 2030 pour lutter contre les changements climatiques. Un programme qui a depuis fait l'objet de nombreuses critiques parce qu'il n'a jamais vraiment atteint ses objectifs de plantation. Puis les sommes allouées au budget n'ont pas été toutes dépensées. Fait qu'on va juste mettre la hache sans vouloir faire de mauvais jeu de mots là-dedans. Au sport, retour en action ce soir pour le Canadien de Montréal au Centre Bell face aux Flyers de Philadelphie. Si Montréal bat Philly ce soir et que l'Avalanche et les Jets perdent respectivement contre le Lightning de Tampa Bay et les Kings de Los Angeles, ben le Canadien qui se retrouverait demain matin au tout premier rang du classement général de la LNH. Le gérant des Blue Jays de Toronto, John Schneider, qui est un des trois finalistes pour le titre de gérant de l'année dans l'Américaine, se retrouve en nomination aux côtés de Stephen Vaught des Guardians de Cleveland et de Dan Wilson des Mariners de Seattle. Et finalement, dans la NFL, surprise hier, alors que les Cardinals de l'Arizona ont eu le dessus 27-17 sur les Cowboys de Dallas. Dans les prochaines secondes, on reçoit notre premier invité. On y a parlé il y a quelques semaines pendant la campagne électorale, puis j'ai trouvé ça cool parce que au lendemain de l'élection de dimanche, vous avez été nombreux à m'écrire « Hey, le kid de 18 ans avec qui t'avais jasé qui se présentait à la mairie de Saint-Lambert de Lauzon, as-tu gagné, as-tu perdu, qu'est-ce qui est arrivé avec ça? » Fait que je me suis dit « Regarde, on va faire mieux que juste donner les résultats, on va lui jaser. » Dans quelques secondes dans le Point de Max. Gravel dans le... 16h16 dans le point de Max à Boulevard 102-1, 88-971-1021, le numéro pour me rejoindre en, par texto. Puis je répète souvent la même chose, là, que ce soit pour quelque chose sur la route ou pour poser des questions aux invités. Ça fait toujours plaisir de vous voir participer. Je vous ai vendu la mèche dans les dernières secondes. On parle à Charles Fecteau. Ça, c'est le candidat défait à la mairie de Saint-Lambert de Lauzon, âgé de seulement 18 ans. Il avait parlé il y a quelques semaines, puis ce qu'on avait compris de la démarche, c'est qu'il se présentait pour offrir une opposition au maire sortant, Olivier Dumais. Mais les attentes étaient très limitées, dans le sens où on se présentait pour créer un débat, pour créer un débat dans l'opinion publique. Puis finalement, ça a été très serré. Charles Fecteau, salut!
Salut Marc, ça va?
Yes, ça va super bien. Olivier Dumais, finalement dimanche, qui a récolté 51% des votes pour être réélu maire, t'as réussi à aller chercher 47% des votes. Est-ce que t'étais surpris que ça passe aussi proche?
J'en étais extatique pour de vrai. Là. Dans une campagne, veux pas, on reste toujours. On vise toujours la victoire, on reste optimiste tout au long, mais veux pas. Pendant le mois, ben beau qu'on est en égalité parce que les deux candidats sont à zéro, ben il y a quand même un effet de réalisme qui rentre. Je veux dire, c'est un maire sortant. C'était un candidat pour être député là, qui était défait seulement par 200 voix pour toute la circonscription. Il y a une certaine renommée. Moi, je me suis présenté justement pour faire un exercice démocratique. Je m'en suis pas caché. Mais d'arriver jour du scrutin dans le sous-sol du Centre des loisirs avec justement l'ensemble des conseillers, des candidats conseillers et le maire sortant, quand la première boîte, là, ça a commencé justement, je pense, 51, 46, quelque chose comme ça, là, ça a vraiment pris la salle par surprise. Là. Il y a même eu un petit commentaire du maire sortant de « Hey, c'est donc bien serré ». Fait que moi, ça a vraiment fait ma campagne, puis je veux dire, wow, quand même.
Quand justement tu as vécu ce moment-là, puis que la première boîte sort, est-ce que dans ta tête tu te disais « Bon, OK, c'est la première boîte, puis ça ne durera pas, mais on va en profiter, puis tu sais, c'est cool ». Où tu avais quand même un peu de toi qui espérait que ça reste de même. Puis finalement, ben c'est resté de même. Je les ai donné les résultats. Olivier Dumais qui a réussi à passer avec 51% des votes. Tu as réussi à aller chercher 47% des votes de ton côté. C'est impressionnant.
On est vraiment sur presque un résultat référendaire, là, dans le sens où c'est vraiment divisé. Ça s'est joué à 100 votes. Écoute, au début, tu veux pas, quand c'est les premières boîtes, on regarde beaucoup par le nombre de votes. Fait que tu es au bien beau que c'est quelques pourcentages. Au début, mettons, c'est 5-10 votes. Puis, fait que là, on est comme, oh, OK. Puis là, ça varie, tu sais, parce que quand les. Mettons, si les pourcentages restent pareils, mais il y a plus de votes, bien, l'écart de vote s'agrandit pareil. Fait que, veux pas, à travers la soirée, à un certain moment, tu sais, ça reste proche. Puis des fois, tu es entre deux bottes, ça peut monter ou descendre. Fait que ça crée un espoir. Mais à un certain point, tu réalises, bon, ça serait très surprenant d'avoir une victoire. Tu sais, quand tu as dépouillé la moitié des votes, il reste encore 50 votes d'écart, tu n'as jamais pris le lead. Puis c'est pas comme une grande mairie, je veux dire, mettons, Trois-Rivières, Québec, Montréal, où ce que tout peut jouer jusqu'à la dernière boîte. T'sais, veux pas, quand il y a eu 2300 votes, 100 votes, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup quand même, là, mm-hmm. En pourcentage, ça reste un 5%. Mais pour moi, ça a été une énorme surprise. Objectif que je m'étais fixé minimum 15%, avoir les dépenses électorales remboursées, je m'en suis pas caché. Mais t'sais, honnêtement, mes attentes... 30%, 35%, 40%, j'aurais été sur un nuage. Fait que première boîte, commencer ça à 46, 47%, honnêtement, ça a été là, une énorme surprise.
Sur le terrain, dans les jours avant l'élection, comment tu le filais? Parce que tu dis que tu as été surpris, mais en même temps, j'imagine que sur le terrain, tu avais certains signes de ça, des gens qui voulaient peut-être du changement?
Oui, ben j'ai eu une très belle accueil, puis il y a plusieurs personnes, justement, qui ont été très chaleureux avec moi. Le danger du monde municipal, c'est vraiment l'indifférence. Parce qu'au final, tu sais, les gens sont polis. Ils vont prendre le dépliant, ils vont te faire un beau sourire, mais tu sais jamais si ces gens-là vont aller voter. Fait que c'est très difficile d'estimer. Puis je pense que M. Lachance à Québec, justement, il, avec le résultat, tu sais, lui aussi, il était surpris parce que je pense sur son travail de terrain, puis sur le web, il y a eu beaucoup plus d'appui, justement. Puis ça s'est comme dissipé parce que finalement, c'est tout le temps une majorité silencieuse. Mmh. C'est vraiment ça qui est difficile du monde municipal parce que ça se joue vraiment jusqu'à toute dernière minute. Et donc, oui, j'avais eu des indices de « OK, ça va quand même bien, il y a une envie pour ça ». Mais moi, ce qui m'a beaucoup surpris aussi, c'est la quantité de gens qui sont allés voter. Saint-Lambert, c'est pas une municipalité qui vote beaucoup. C'est pas une municipalité qui vote souvent. Là. Je l'avais déjà dit, dernière fois, ça fait 8 ans qu'il n'y a pas eu d'élection. Puis là, on était sur un taux de participation de 41-42%, ce qui est vraiment incroyable pour Saint-Lambert. C'était 35% la dernière fois que j'avais regardé là, pour une élection complète. Fait que là, un candidat à la mairie, un candidat pour un poste de conseiller, 42%. J'ai brassé de la menthe, je pense, là.
Ben, justement, est-ce que tu penses que le maire élu, Olivier Dumais, va comprendre un certain message de ce qui s'est passé?
Ben écoute, je veux dire, M. Dumais veut pas, même si ses proches ont gagné, il est très légitime dans sa victoire, puis je le félicite d'ailleurs d'avoir réussi à avoir un troisième mandat. Je pense que ça l'a peut-être ébranlé. Ça l'a, tu sais, quand on est élu par acclamation, il y a 4 ans, ben on n'a pas eu ce test démocratique-là. Fait qu'après ça, veut pas, c'est un bilan de 8 ans que les gens ont évalué. Puis là, pour quelqu'un qui a commencé à la campagne en disant « Tout le monde m'aime, les gens sont contents, il n'y a pas d'enjeu », je pense que ça fait comme « Oh, OK ». Oui, ils m'ont donné confiance, mais il y a quand même une petite nuance dans mes propos. Fait que j'espère que ça va être la coche de plus, tu sais, que ça va l'amener à aller plus loin dans sa démarche, peut-être à être plus ouvert, d'aller chercher plus l'appui directement des gens. C'est sûr que là, monsieur Dumais avait confirmé ses intentions de se représenter pour le Parti conservateur du Québec, encore une fois comme député dans 11 mois. Il ne se l'était pas caché finalement, il l'avouait pendant la campagne. C'est sûr que ça l'a peut-être joué dans la balance. Il y a sûrement des gens qui se sont dit ben, « je préfère avoir le jeune pendant 4 ans que juste un maire pendant 11 mois ». Mais j'ai hâte de voir finalement, peut-être avec ce résultat-là, il va sentir un besoin de justement rester son 4 ans, défendre son bilan, continuer avec la municipalité. Peut-être qu'il va quitter dans 11 mois. J'ai hâte de voir, mais dans tous les cas, j'espère que ça va être un net positif, là, cette élection-là.
Si il quitte dans quelques mois, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là?
Ben, c'est une élection partielle, comme on a connu au provincial à Tarbonne, puis à Arthabasca. Je veux dire, c'est le classique. C'est sûr que, bon, la première question dans une situation comme ça, c'est « Est-ce que tu vas te représenter? » La réponse, c'est on verra. Je pense que, tu sais, j'ai eu, honnêtement, ce résultat-là, ça m'a beaucoup motivé à faire de la politique. Ça a été très encourageant. La confiance des gens. Puis j'ai été très transparent dans mes motifs aussi, dans mon expérience, dans tout. Puis pour que les gens l'accueillent comme ça, moi, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, surtout dans ma municipalité natale. C'est une question que je me suis posée. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est un nouveau début? Est-ce que c'est... Après ça, je vais dans un autre palier? Est-ce que je reste au municipal? Mais au final, je pense que dans 11 mois, c'est vraiment une question de qui se présente, premièrement. Si je trouve que, mettons, il y a 2-3 candidats, je pense que ces gens-là sont qualifiés. Parce que, veux pas, à 18 ans, je le considère là, que je suis trop jeune. Puis qu'il y a un certain manque d'expérience. Mais au final, il y a personne d'autre pour cette élection-là. Puis je pense que, justement, 47%, les gens ont fait comme, ouais, il fallait une élection. Fait qu'après ça, si je vois 2-3 candidats, je vois une panoplie de perspectives à la prochaine élection, ben je ne sentirais peut-être pas le même appel à me présenter. Je vais peut-être me laisser mariner encore quelques années. Mais après ça, si on est dans la même situation, ou ce que je sais pas, il y a une conseillère qui se présente, puis il n'y a personne d'autre, parce qu'on est encore une fois 11 mois plus tard, même situation, ben, tu sais, si on est pour aller dans la continuité, puis moi, je pense qu'il y a un besoin de changement, ça se peut que je me relance une deuxième fois. Mais je vends pas la mèche d'avance.
As-tu eu, puis je veux que tu comprennes bien ma question, mais as-tu un peu à chienne d'être élu dans un sens où j'ai l'impression que tu te lançais en disant, puis tu l'as pas caché non plus, je vais apporter quelque chose au débat public, mais que dans ta tête, tu savais que les chances que tu sois élu, t'es assez basses. Puis finalement, ça a passé proche. T'as-tu un peu la chienne? OK, ça se peut que je devienne vraiment maire puis que j'aille vraiment les responsabilités qui viennent avec.
Ben dans la dernière semaine de la campagne, quand pour de vrai, il y avait un momentum, j'étais parce que je me suis lancé pas juste pour la campagne, là, j'ai considéré la gouvernance. Là. Je me suis lancé puis je me suis pas caché de mes motivations du débat puis je me suis pas caché de mes chances. Mais ça reste que, je veux dire... Je veux améliorer Saint-Lambert.
T'étais sérieux dans ta démarche.
Oui, oui, j'étais sérieux dans ma démarche. J'étais sérieux, puis je veux dire, j'étais très critique de mes propres habiletés, mais je sais que j'aurais été capable de vraiment amener quelque chose à la municipalité, puis veux pas, j'aurais voulu gagner. Mais je suis d'accord avec toi que dans la dernière semaine, quand ça allait bien, il y a des moments où je me dis, damn, ça va peut-être trop bien. Puis veux pas, il y a plusieurs variables à considérer. Le salaire du maire à Saint-Lambert, là, 85 000 $ Hey, 85 000 $ dans... Puis t'sais, je dis ça parce que tu fais quoi avec cet argent-là à 18 ans? Hein? T'habites chez tes parents, t'as pas de dépenses. Je fais quoi avec 85 000 $ d'argent public, là? T'sais, c'est pas un loto, là, je m'achète pas un char de l'année avec ça, là. C'est de l'argent des contribuables. Bon, c'est un salaire, mais même à ça, je veux dire...
T'avais un peu le syndrome de l'imposteur déjà qui commençait à rentrer.
Ben, solide, là. Puis t'sais, pour une job à temps partiel pendant mes études, je veux dire... veux pas, je veux dire, il y avait toutes ces circonstances-là de comme, il y a la gouvernance, mais après ça, il y a rentrer dans ce monde-là puis faire comme, qu'est-ce, tu sais, je veux dire, j'ai 18 ans quand même, là, je veux dire, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec tout ça? T'sais? Fait que pour de vrai, je veux dire, j'aurais été prêt à gouverner, puis je l'aurais fait avec grand plaisir, mais ça reste qu'il y avait des éléments où j'ai pris la peine, j'ai eu des démarches à considérer. Bon, si je t'ai lu, bon, cette question-là du salaire, parce que le salaire, dans les 4 dernières années, il a augmenté de 10 000 $ à chaque année. Fait que là, moi, ma première réflexion, c'est ça finit, là, on gèle ça. Ma deuxième réflexion, c'est est-ce que je le baisse, le salaire? Puis après ça, t'sais, c'était comme, bon, t'sais, mettons s'il y a quelqu'un d'autre dans 4 ans, puis cette personne-là, justement, parce que pour un étudiant, c'est facile, j'ai pas de coût de sacrifice. T'sais, j'abandonne pas des enfants ou un emploi pour ça. Fait que t'sais, cet argent-là, c'est juste de plus. Mais pour quelqu'un, mettons, qui a un autre job ou qui va passer justement 20-30 heures puis qui va être moins là pour ses enfants, bien, il y a un coût de sacrifice. Fait que c'est normal qu'il y ait une raison financière de se présenter. Puis je veux dire, même avec ce salaire-là, il n'y avait pas d'autres candidats. Fait que je me dis, si, mettons, je le coupe de moitié parce que pour mes besoins, bien, c'est pas comme si le prochain, ah, ben là, moi, il ne va pas le doubler dans une année. Fait que je me suis dit, bon, clairement, il va y avoir un gel. Est-ce qu'une diminution, ça pourrait être contre-productif au long terme? Il y a eu toutes ces réflexions-là. Ça a été à considérer, mais au final, oui. La réponse courte, c'est oui. J'ai un peu la chienne, mais j'étais préparé.
Je vous rappelle qu'on parle à Charles Fecteau, qui, à 18 ans, est passé à une centaine de votes de devenir maire de Saint-Lambert-de-Lauzon, a finalement été battu à l'élection par Olivier Dumais, qui était le maire sortant. Est-ce que tu as eu l'occasion de lui jaser à M. Dumais?
Écoute, pas vraiment, sauf, mettons, le protocolaire post-résultat. Là, je veux dire, j'ai serré la main. Bon, j'ai pas vraiment échangé beaucoup de paroles, il y avait quand même une certaine ambiance dans la salle, puis j'ai fait un message sur justement mes réseaux pour remercier les électeurs, remercier les bénévoles. J'ai félicité M. Dumais pour sa victoire, Nathalie Bissonnette aussi, la conseillère qui a gagné pour le siège numéro 2, mais j'ai pas eu la chance vraiment d'avoir une discussion post-campagne. J'aimerais ça parce que pour de vrai, je serais curieux de voir de sa perspective là, le maire sortant ayant choisi de ne pas faire campagne. Je ne sais pas s'il a regretté sa décision. En tout cas, il a passé proche de regretter sa décision. Mais j'aimerais vraiment ça. Puis je veux dire, je lance l'invitation ouverte. Si jamais il est en onde, là, ça me ferait grand plaisir. Je trouve que c'est important aussi de voir post-mortem la campagne, les enjeux. Puis encore une fois, là, avoir une voix, même si c'est pas comme maire, si ça peut faire une différence, moi, je suis tout à fait pour ça. C'est pas parce que j'occupe pas la grande chaise que je peux pas faire une différence à Saint-Lambert.
On va lui parler, je viens d'avoir la confirmation à Olivier Dumais dans à peu près une heure. Fait que tu seras à l'écoute, puis au pire, je passerai le message que tu lui piquerais une petite jasette. T'as-tu suivi un peu ce qui s'est passé à l'élection à Québec? Je veux pas. Géographiquement, on est proche. Tu étudies à Québec aussi?
Oui. Puis la soirée électorale, nous, ça a été quand même long dépouillé. Là, fait que moi, Patrice, j'ai parlé. Déjà, parler à Patrice Roy, là, waouh! Ça, c'est dans mon top 10 des moments de l'année. Mais oui, j'ai suivi là, toute la soirée électorale. Puis Québec, ben justement, je parlais de M. Lachance tantôt, mais quel M. Marchand, waouh! Tu sais, je veux dire, c'est tout qu'un mandat qu'il a reçu. Là, t'es 51% avec 5 autres candidats. Non, 51, c'est quoi, 50? Un affaire comme ça?
Tout près de 50, ouais.
Avec 5 autres candidats. Wow! C'est flagrant.
En parallèle, Claude Villeneuve, qui était le chef de l'opposition, n'a pas réussi à faire élire avec Québec d'abord de candidat. Lui n'a pas été élu, donc via son colistier, à peu près un 7% des votes à la mairie. Puis je suis curieux de t'entendre, Charles, sur une quote de Claude Villeneuve hier à son point de presse, où il a fait un petit peu le bilan. Puis il a mentionné que, justement, pour Bruno Marchand, ça a été un peu une balade dans le parc.
C'est un exemple. Moi, je pense que son pire engagement à la campagne, sa pire erreur de la campagne, c'est son engagement sur l'incinérateur. Là, il y a David Rémillard de Radio-Canada qui a fait un excellent papier, tu sais, qui montrait tout ce qui ne marchait pas dans cet engagement-là. Puis j'avais pas le sentiment qu'en point de presse, après ça, il se faisait poser des questions là-dessus, puis il se faisait, qu'il y a eu à répondre. J'avais pas l'impression qu'il y a eu de la pression sur Bruno Marchand. T'sais, c'est que lui, il a eu une marche dans le parc, là, en quelque sorte. T'sais. Mais bon, il était prêt. Il l'a pas volé, là, puis il a la pleine légitimité maintenant. Là, je trouve que... Puis ça, c'est... Tu sais, j'aurais aimé réussir à mettre Bruno Marchand à l'épreuve davantage.
As-tu l'impression qu'il y a des similitudes à faire entre Bruno Marchand et sa campagne et M. Dumais du côté de Saint-Lambert-de-Lauzon? T'es arrivé pour apporter une certaine opposition. T'as réussi à le faire, comme le montre bien le presque 50% que t'as réussi à aller chercher. Mais as-tu l'impression que des fois, pour des maires sortants... Puis les statistiques le prouvent, ça peut être facile de revenir.
Oui, bien, l'effet du maire sortant, c'est un effet scientifique étudié au Canada. Au municipal, les maires sortants ont vraiment une plus grande chance d'être réélus. Ça vient du fait que, bon, à Québec, c'est peut-être moins vrai, là, mais en général, il y a moins d'enjeux polarisants au municipal. Donc, les gens qui se disent, bon, ça va pas tant mal, fait que je vais rester avec la personne connue, la personne qui occupe déjà le poste. Il y a le statu quo, là, c'est très humain, comme je reste dans mon confort. C'est sûr que, bon, je suis pas tant d'accord avec M. Villeneuve sur le fait que, bon, M. Marchand, pour moi, dans les médias, je suis pas un habitant de Québec, mais je pense pas qu'il y a eu une marche dans le parc au niveau de l'apparence publique. Je pense qu'il y a peut-être certains médias qui ont été plus faciles avec lui, mais de dire que il n'a pas été challengé, je pense que c'est pas vrai. Mais moi, je pense que pour de vrai, M. Villeneuve, il était dans une situation extrêmement difficile, puis j'enlève rien à sa campagne parce que le vote stratégique, c'est vraiment le vote stratégique de pro et contre tramway. Et puis,
On peut l'entendre d'ailleurs aussi, tant qu'à en parler, là, oui. Du vote anti-Lachance. Claude Villeneuve l'a abordé hier.
En fait, la question de l'urne, à l'origine, on aurait dû la définir comme un mandat de plus ou pas pour Bruno Marchand. Finalement, la campagne, c'est devenu qui peut remplacer Bruno Marchand. Puis là, les gens se sont jamais entendus là-dessus. Puis là, il y a eu. Quand vous voyez Stéphane Lachance monter, il y a eu une. Moi, je l'ai senti, la quantité de fois que je me suis fait dire, hey, Claude, j'adore ta candidature, j'adore ton œuf, j'adore ton candidat dans mon district. Mais on peut pas avoir Stéphane Lachance comme maire. Ça n'a pas de bon sens, tu sais, je veux dire.
Puis, moi, j'ai un certain respect pour ce que Claude Villeneuve a choisi de faire, c'est-à-dire rester dans le camp des pro-tramways, alors qu'il sait que c'est probablement ça qui a coûté son élection. Puis, je veux qu'on termine notre discussion en écoutant Claude Villeneuve à cet effet-là, parce que j'ai trouvé ça beau, ce qu'il a mentionné par rapport au fait de rester dans le camp des pro-tramways.
Je pense en quelque sorte, mon sort a été scellé quand j'ai décidé que je ne prendrais pas le train anti-tramway. Ça aurait été une option. Il y a un moment où je le voyais, qu'il y avait un ballon à ramasser, qu'il y avait une place à prendre, que... c'est encore une conclusion, hein, c'est que... Tu sais, à ce jour, il y a jamais... Il y a beaucoup de gens qui sont contre le tramway au Québec, mais à ce jour, il n'y a pas encore eu des acteurs politiques crédibles, organisés, professionnels, qui ont été capables d'organiser cette tendance-là. Puis c'est ce qui fait en sorte que si elle existe dans la population, elle reste marginale au sein de nos institutions. Puis je l'ai vu à un moment donné qu'il y avait cette place-là à prendre, puis j'ai choisi de ne pas le faire parce que, puis c'est comme ça que je l'avais articulé aux gens de mon équipe, si j'ai le choix entre être encore membre du conseil municipal dans 4 ans ou qu'il y ait un tramway qui circule à Québec dans 10 ans, je choisis le tramway parce que c'est ça qui est bon pour mes filles.
C'est beau, les convictions comme ça en politique.
Mais... tu sais, j'en ai parlé, moi, l'authenticité, la facilité de faire une campagne quand t'es authentique, là. Puis je trouve ça presque dommage que les mots sortent de la bouche de M. Villeneuve, parce qu'on dirait qu'il compense pour une défaite, mais ce qu'il dit, c'est tellement juste. Il faudrait que ça sorte de la bouche d'un analyste politique pour qu'on puisse dire que c'est neutre, là. Mais c'est tellement juste de dire ça aurait été facile d'être justement, hey, je suis chef de l'opposition. Puis non, finalement, c'est vrai, le tramway, les gens en veulent pas, finalement. Puis en politique, en opposition, indépendamment des partis, à tous les paliers, on voit ça. Je tape sur l'enjeu populaire. Puis, mais M. Villeneuve, encore une fois, je veux dire, le vote stratégique, comme il dit, faut pas que ça soit quelqu'un qui est pro-tramway, justement, faut pas que ça soit M. Lachance, peu importe, M. Hamad. Puis on a vu ça au fédéral aussi un peu, là. Faut pas que les conservateurs rentrent, fait que le NPD, ben, c'est ciao, là. Parce que des votes de conviction comme ça, souvent, ben justement, on part d'un idéal. Mais l'idéal, c'est pas juste d'aller vers le positif, c'est d'éviter ce qu'on considère qui est négatif.
Souvent contre et non pour.
Exact. Fait que pour M. Villeneuve, sa campagne, c'était une position, puis à 6 candidats, là, je peux pas imaginer, là, c'est extrêmement délicat comme position, je veux dire. Puis encore une fois, pour n'importe qui se dit pro-tramway, comme il a mentionné, ben Bruno Marchand, c'est un peu le vote qui rallie, parce que justement, c'est la figure, c'est le maire sortant, c'est M. Tramway.
Ouais.
Donc c'est logique pour quelqu'un qui est pro-tramway, puis comme il l'a mentionné, je veux dire, moi j'aime mieux qu'il y ait un tramway, que j'ai un poste, puis c'est tout à fait authentique, puis c'est vraiment tout à son honneur. C'est fantastique comme discours.
Charles Fecteau, 18 ans, candidat défait par 100 votes seulement à la mairie de Saint-Lambert-de-Lauzon. Merci beaucoup d'être passé. Puis si tu veux jaser de politique de temps en temps, ça va me faire plaisir.
Ah, écoute, ça va toujours me faire plaisir. Puis merci beaucoup, Max.
Dans les prochaines minutes, on jase de politique fédérale parce que c'est jour de dépôt du premier budget Mark Carney. Sandra Aubé, qui est excellente, qui on jase d'affaires fédérales. Elle est vice-présidente des affaires fédérales chez TACT. On va la rejoindre. Il est 10h35. Vous écoutez le Point de Max. Le Point de
Max. Ce segment d'émission présenté par la Force Kia.
Chez Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair, c'est l'événement électrique 0% zéro essence avec une centaine de Niro EV et de EV9 en stock. Niro EV, 0% 84 mois à l'achat. EV9 à partir...
6h41 dans le Point de Max à Boulevard. Présentement à Québec, c'est 6 degrés. On attend un maximum de 7 avec 40 % de possibilité d'averse aujourd'hui. Demain, mercredi, c'est 5 degrés avec de la pluie. Jeudi, 4 degrés alternant soleil nuage. Vendredi, 1 degré, neige intermittente, oui, de la neige. Samedi, pour la finale Rouge et Or face au Carabin, on attend une tabarouette de belle journée à date. 5 degrés avec alternance soleil-nuage. C'est vraiment ça qu'on a là, pour le tailgate, pour le match. Ben, je pense qu'on va le prendre avec le plus grand des plaisirs. C'est jour de budget fédéral en ce 4 novembre. Premier budget, Mark Carney. On va connaître les détails aux alentours de 16 heures. Et pour en parler, Sandra Aubé, vice-présidente aux affaires fédérales chez TACT. Sandra, bonjour.
Bonjour.
On va connaître les détails, comme je le disais, aux alentours de 16 heures, mais déjà, on peut parler de plusieurs éléments par rapport à ce budget-là. Puis première question que j'ai envie de te poser, Sandra, puis la réponse est dure à avoir en ce moment, quoique je pense qu'on est plusieurs à s'attendre à ce qu'on ne retourne pas en élection sous peu. Là. Maintenant, restera à voir les modalités de tout ça, mais ça va passer ou casser ce budget-là?
Écoute, j'aime ça quand on me demande de canaliser ma jojo intérieure pour dire qu'est-ce qui va arriver. Je pense, avec ma boule de cristal, je dirais, je pense qu'il va passer. Je pense qu'il... Il y a personne qui est capable de le dire là, à ce moment-ci avec vraiment la certitude. Mais ce qu'on voit là, c'est absolument typique du drame habituel qu'on voit quand il y en a un gouvernement minoritaire. Puis là, tout le monde tire la couverte de son côté pour dire si on n'a pas ce qu'on veut dedans, on ne fera pas passer le budget. Mais il n'y a personne qui va avoir l'odieux de faire tomber le gouvernement. Puis le gouvernement, lui, qui dit « ben moi, je mets le meilleur budget de l'avant ». Puis si vous n'êtes pas content, ben vous porterez l'odieux. Fait qu'on fait un peu vivre cette tension-là. Puis il y a beaucoup de rumeurs à savoir est-ce qu'il y aura un vote de confiance dès cette semaine. Habituellement, c'est retardé. Là, habituellement, on parle de 10 à 14 jours avant qu'il y ait un premier vote. Mais là, il y a des stratégies pour venir chercher de la certitude plus rapidement. Ça va-tu se faire? Ça va-tu pas se faire? Alors, honnêtement, il y a beaucoup d'excitation à Ottawa ce matin. C'est rare qu'on a ça, là, comme plus d'excitation qu'en pleine saison touristique.
pour une première fois, le budget va vraiment être présenté en deux sections distinctes. Oui. Tu auras les dépenses qu'on appelle de fonctionnement et les investissements. La stratégie derrière ça, là, c'est simplement et uniquement de l'image, mais qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut projeter?
C'est pas juste une stratégie d'image. Okay. Quand on regarde le fonctionnement du gouvernement, puis tous les processus parlementaires pour aller débloquer aussi les budgets, puis la reddition de comptes, la façon dont c'était fait dans le calendrier, puis comme de mettre tout ça ensemble, ça faisait que, par exemple, pour aller débloquer de l'argent, souvent on allait manquer la saison de la construction dans le Nord, comme ça fonctionnait pas avec le calendrier. Fait que je veux pas comme dire « Ah, c'est très extraordinaire ce que le gouvernement fait », c'est juste qu'il y a une réalité très technique qui faisait que, tu sais, c'est long, les gouvernements, puis passer au Conseil du Trésor, puis aller comme un peu débarrer cet argent-là, ce qui faisait qu'il y avait du retard, comme de la bureaucratie, puis les parlementaires, j'allais dire parlementerie, mais comme tous les éléments liés au Parlement, faisait que ça donnait beaucoup de retard. Donc, on va venir corriger ça, mais je pense aussi que ce que le gouvernement essaie de faire, oui, il y a un élément d'image pour dire que voici où on vient couper, où on vient faire des compressions dans le système, et voici où on viendra mettre de l'argent, et en montrant le coût du système aussi, hein, qui a explosé pendant au cours des 10 dernières années, bien, on vient dire justement, on vient mettre la hache là-dedans, puis on est capable de montrer plus concrètement là, c'est quoi le coût de ce système-là. Il y a quand même un élément très important dans la mécanique du financement des projets qui devrait permettre d'aller, de pouvoir débourser plus rapidement pour des projets, notamment, je pense à des infrastructures là, qui ont besoin que les sous sortent rapidement, puis c'est pas le cas.
La presse nous a dit ce matin, puis entre-temps, je pense que ça sortit dans d'autres médias aussi, là, mais que le budget doit aussi détailler le plan du gouvernement afin de réduire la dépendance économique du Canada face au marché américain. Est-ce que tu t'attends à du vrai concret ou ça va être encore un genre de plan à peu près avec des investissements à peu près? Puis que finalement, ben, on ne va pas plus savoir qu'hier où on s'en va pour diversifier notre marché.
Je pense qu'on va voir des éléments concrets, mais c'est sûr que l'exercice qu'on voit aujourd'hui, le budget, c'est un gros show de boucan. Hein? Il y a un document qu'on a, puis on va tous y avoir accès sur Internet, une espèce de, si c'est en vrai, c'est une grosse brique de documents, des centaines de pages. Mais au-delà de ça, il y a plein de gens qui viennent à Ottawa, on a l'occasion de parler avec les fonctionnaires pour comprendre qu'est-ce qui est annoncé. Puis à 4 heures, le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, commence à parler, puis là, les médias ont le droit de commencer à parler ce qu'ils ont lu tout au long de cette journée. Donc, il y a un peu ça. Et dans ce gros document-là, il y a beaucoup de blabla, comme c'est toujours le cas. On compte, en tout cas, c'était le cas dans les 10 dernières années et plus, comme on compte une histoire qui est l'histoire qu'on voudrait qu'il soit contée dans les médias ou que les citoyens comprennent. Donc, c'est le fameux narratif. Donc, ça, c'est sûr qu'on verra ça. Puis, honnêtement, on a vu plein de ce langage ampoulé-là dans les communications avant le budget. Donc, il y aura de ça. Mais c'est sûr qu'on s'attend à des mesures. Puis, ce que j'espère pour notre économie, c'est qu'on ait un peu un électrochoc avec des mesures justement pour faire pivoter puis venir encourager l'investissement étranger, l'investissement direct étranger, mais autre que les États-Unis, qu'on ait des mesures encourageant l'innovation, la recherche industrielle, qu'on encourage nos cerveaux ici, comme nos ingénieurs, nos chercheurs, nos gens d'intelligence artificielle en quantique, mais au-delà de ça, pour qu'on puisse avoir cette valeur ajoutée-là. Tu sais, on a beaucoup de ressources au Québec, au Canada, mais on a aussi énormément de talent. On a une population extrêmement éduquée, puis c'est une force extraordinaire. Puis j'espère que ce gouvernement-là va pouvoir capitaliser là-dessus. Puis ça, ça fait partie d'un plan. Mais évidemment, on s'attend possiblement à des mesures fiscales pour venir réduire le fardeau de la part des entreprises. Maintenant, pour la diversification des marchés, il y aura certainement des mesures incitatives. On s'attend à ce que la Banque de développement du Canada reçoive de l'argent. Je me mélangeais des fois entre EDC et BDC, mais on s'attend à ce qu'il y ait des sous qui aillent là pour aider les entreprises, mais c'est quand même pas tout cuit dans la bouche là, à ce moment-là. Les entreprises, ça va prendre du temps. Puis c'est pas le gouvernement qui dit tiens, voici ce que tu dois faire. Ça prend beaucoup de leadership du privé, des entreprises, puis le gouvernement devrait être là pour donner l'étincelle qui permet à tout ça enfin de se matérialiser, mais on se souhaite un pivot parce qu'on en a tous de besoin, mais je pense que c'est mettre la barre pas mal haute.
Le gouvernement qui va mettre la hache dans le programme 2 milliards d'arbres de Justin Trudeau, c'est 3,2 milliards qui avaient été annoncés pour financer des projets de plantation d'arbres en 2020. Ça, on met ça dans la catégorie de cash quand même facile à couper. Là, quand tu regardes les dépenses, tu te dis où est-ce qu'on peut couper ce programme-là qui, de toute façon, a déjà été beaucoup critiqué puis qu'au final, on se dit peut-être pas donné grand-chose. Ça doit être dans les premières affaires qu'on a identifiées comme « ouais, ça, ciao, bye ».
Oui, c'était une patate chaude pour le gouvernement de Justin Trudeau qui n'était jamais vraiment capable de dire combien d'arbres avaient été plantés puis de prouver l'efficacité de ce programme-là. Bien que ce soit une idée, je pense que personnellement, je salue. On n'a pas vu les résultats qui auraient dû aller avec ça. Quand tu n'as pas des résultats, ben, tu mets la hache dedans. Puis c'est sûr que quand on regarde les priorités présentement, les priorités, c'est souvent de mettre du pain sur la table puis de pouvoir payer les factures à la fin du mois. C'est pas un programme qui permet ça. Donc, tous les éléments qui sont pas dans, qui répondent pas à l'urgence, comme passent à la trappe, là.
Dans la situation actuelle où le déficit va être très élevé, puis on va y revenir, là, je vais vouloir ta prédiction très exacte sur le déficit qu'on va annoncer aujourd'hui. Okay. Mais le jeu fédéral-provincial, les provinces ont des demandes, le fédéral a un certain budget à respecter, même si des fois on se dit qu'il ne respecte pas tant que ça quand on voit le déficit. Là. Comment on danse entre les provinces et le fédéral dans le contexte où les provinces vont peut-être en demander toujours un petit peu plus? C'est le jeu des négociations. Si tu veux obtenir, je ne sais pas, 10 millions pour quelque chose, ben ça se peut que tu en demandes 12-13. Puis là, je prends n'importe quel chiffre au hasard, juste donner l'exemple du jeu des négociations. Peu importe ce qui arrive, les provinces ne seront jamais vraiment satisfaites de ce que donne le fédéral?
Non, ils seront jamais complètement satisfaites. Il y a des demandes qui ont été faites. Les chiffres qui flottent, puis tu les as lus comme moi. Hein, on parlait d'une demande de 100 milliards, puis là, possiblement qu'on arriverait avec 50 milliards. On verra c'est quoi le vrai chiffre quand le budget sortira. C'est sûr que si on est un programme au niveau des infrastructures, là, c'est de ça que je parle en ce moment, hein, au niveau des infrastructures, pour les provinces à 50 milliards sur 10 ans, ça fait 5 milliards par année. Comme tu n'achètes même pas un hôpital avec ça là, en dollars d'aujourd'hui pour un an. Là, donc, c'est 50 divisé par 10. C'est sûr que ça répondra jamais assez. Les coffres des provinces sont aussi vides. Hein? Tout le monde fait des déficits. Personne n'a d'argent. Les systèmes de santé sont en ruine. Souvent, il y a des gros défis. C'est sûr que la demande va toujours être beaucoup plus grande, mais je pense que si le gouvernement fédéral est en mesure d'avoir un dialogue constructif, de montrer quelle est la réalité aussi, c'est quoi l'état des finances publiques, puis voici l'effort qu'on est en mesure de faire pour garder minimalement se garder à flot sans affecter notre cote de crédit, parce que ça, c'est un autre élément qui est important. Je pense que les provinces vont devoir comprendre pour le moment. Il y a quand même un... Tu sais, on vit une situation qui est particulière dans le sens où notre économie est frappée de plein fouet. On a vu le produit intérieur brut, c'est en chute, les exportations sont en chute. Ça commence à faire très mal, puis ça va faire encore plus mal par rapport à la crise tarifaire. Donc, c'est sûr que les revenus qui pouvaient avoir été estimés ne sont pas là, qu'il y a des nouveaux programmes qui ont dû être mis en place. Puis moi, je pense que ça aussi, c'est la collaboration avec les provinces pour que les programmes de soutien soient vraiment alignés puis répondent vraiment aux besoins, puis qu'on ne soit pas en train de doubler des choses, de travailler en silo. La pire des choses qu'on peut se faire en ce moment, c'est de travailler en silo pour avoir des éléments qui ne répondraient pas vraiment aux besoins. Mais les provinces ne seront jamais contentes, puis c'est bien correct.
À un certain moment, de ta dernière réponse, tu as mentionné cote de crédit. En entrevue hier à Radio-Canada, le ministre Girard a lancé que, dans le fond, c'est un peu à cause du fédéral si la cote de crédit du Québec a été abaissée parce que le fédéral n'a pas donné assez d'argent, fait que le Québec n'a pas eu le choix d'investir plus de son côté, plus que peut-être les moyens qu'on avait. Fait que c'est de la faute d'Ottawa si notre cote de crédit a baissé. Ça, c'est pas une bonne façon de se faire des amis à Ottawa.
Écoute, les gens présentent les choses de la manière qui leur convienne en politique. Moi, c'est éminemment politique comme réponse. Puis, c'est facile comme réponse, j'ai envie de dire. En même temps, je ne suis pas M. Girard, je n'ai pas les livres et les rênes des finances au Québec. C'est sûr que si Ottawa donnait plus d'argent à tout le monde, les provinces seraient dans une meilleure posture. En même temps, il y a des choix que les provinces font puis qui affectent aussi. Fait que, écoute, je vois là-dedans un peu de facilité, puis j'ai envie de dire en mauvais français, c'est fair game.
En terminant sur ce dossier-là, c'est l'heure de la prédiction. À un déficit de combien de milliards de dollars on doit s'attendre?
Moi, je dis 80.
80, je pense que ce matin, j'ai dit 76 ou 77. Fait qu'on est
dans
les mêmes eaux. T'es d'accord avec le fait que, puis c'est quelque chose qui est amené par plusieurs analystes, on nous a laissé entendre que ça pourrait s'approcher beaucoup du 100 milliards dans les derniers mois. Ça, c'est une stratégie pour que finalement, quand on voit genre 80, on se dise « Ah ben là, 80, pas si proche de... »
On a évité le pire, là. Ouais, ouais.
Ben c'est ça.
J'ai cette impression-là. J'ai l'impression qu'on nous a lancé une balloune pour nous faire peur. J'espère que c'est ça. Parce que 100 milliards, en même temps, est-ce que dans les scénarios, puis on jase, là, on fait nos nerds ici, est-ce que dans les scénarios, on se dit présentement, avec l'économie où elle en est, on est effectivement un déficit de genre 78 milliards de dollars, mais on ne peut pas prévoir s'il y aura une autre salve au niveau de la guerre tarifaire qui viendrait affecter. Et donc, on anticipe que le déficit pourrait aller jusqu'à 100 milliards de dollars si on devait débloquer des nouveaux programmes, tu sais. Ça, ce serait peut-être une chose responsable à faire parce que la réalité aussi, pour les auditeurs, puis on le sait, c'est la même chose pour notre budget à la maison. Quand on planifie un budget, on se dit « OK, ça va coûter ci », puis je me mets une enveloppe pour les imprévus, puis pour les petites choses qui pourraient être le fun de la vie, puis shit happens, comme il y a des fois, il y a des difficultés qui vont arriver, puis ton auto, ça allait bien, puis là, elle pète, puis comme, faut que tu changes ton auto, puis comme, ton lave-vaisselle, puis ton frigidaire, puis c'est comme tout lâche en même temps, puis là, ben tu te ramasses à devoir dépenser, je sais pas, 10 000 $ que, tu sais, t'avais un fonds de 4 000 $ puis là, ben t'es dans la merde. C'est la même chose au niveau du gouvernement fédéral. Il planifie pour le pire, mais honnêtement, ça pourrait probablement être pire. Carney a toujours dit ça, il planifie pour le pire, hein, il dit ça depuis qu'il est au leadership. Donc ça devrait être ce qu'on va voir. On devrait voir des scénarios pour le pire.
Présentation du premier budget Mark Carney à 16h aujourd'hui. En terminant, Sandra, sur un autre dossier, Ottawa qui commence les procédures pour aller chercher l'aide financière qui avait été offerte au constructeur automobile Stellantis si elle continue d'aller de l'avant dans le fait de ne pas exploiter son usine de Brampton en Ontario comme l'entreprise devait le faire. Ça, c'est-tu un bon champ de bataille pour Ottawa d'aller se battre contre l'entreprise en disant si vous allez bel et bien investir plus aux États-Unis que ce qui était prévu puis que vous en enlevez au Canada, bien l'aide financière qu'on vous a donnée, là, on va reprendre ça.
Bien, il y a des ententes qui ont été conclues. Donc c'est sûr que le gouvernement, je comprends, comme cherche à faire respecter ces ententes-là. Donc ça, c'est un élément à suivre. Je pense qu'il y a un élément aussi par rapport à ce qu'on voit présentement qui est éminemment politique, le gouvernement qui veut se montrer, puis je comprends, là, qui veut se montrer près des travailleurs. C'est très difficile ce que les travailleurs vivent. Donc on veut montrer qu'on n'est pas dans une attitude passive, mais qu'on va aller recouper s'il y avait des deniers publics qui déménageaient aux États-Unis. Essentiellement. Donc c'est un peu ce qu'on voit. Il y a des éléments très techniques, certainement, dans des salles de conférence qui sont discutées. Je pense que au-delà de ça, puis au-delà un peu du show de boucan qu'on voit, Max, ce que le gouvernement cherche à faire, c'est à garder les emplois ici, puis à garder cette chaîne, puis la production automobile ici. Donc, c'est des discussions très tendues, c'est certain. Puis c'est une industrie qui est cyclique, hein, le secteur automobile, comme il y a des hauts, il y a des bas, puis ben c'est sûr qu'il se retrouve pris dans la crise tarifaire également.
Sandra Aubé, vice-présidente aux affaires fédérales chez TACT, merci beaucoup pour ton temps. On se reparle bientôt.
Merci, bye.
Bye-bye. Donc, dépôt du premier budget Mark Carney, c'est à 16h que ça se passe ce soir. Suivez l'équipe du retour avec Véro, Audrey cette semaine, Gab Marino pour être au courant de tout ce que vous devez savoir. Dans les prochaines minutes, c'est l'open mic avec Audrey Pinchot. Et je vous glisse au passage une information sport, information hockey. C'est Samuel Montembeault qui sera devant la cage du Canadien face aux Flyers de Philadelphie ce soir. À mon avis, une décision terriblement mauvaise. Mais bon, tant mieux si Montembeault est capable de se replacer. Il va mériter sa poutine après la game. L'open mic dans quelques minutes. 11h04, bientôt 11h05, dans quelques secondes. Vous écoutez le point de Max à Boulevard 102.1. Et à 11h, ben, c'est l'heure de l'open mic avec Audrey Pinchot. Qui a l'air un peu sonné à matin.
Merde, tu dis pas ça à quelqu'un, Max.
Non, mais dans le sens, t'as tes yeux gommés un peu, là.
Tu trouves?
Ben, un peu.
Voyons, je viens de me faire dire sur le Twitch que j'étais rayonnante.
Ben, un n'empêche pas l'autre.
Ben, mon Dieu. C'est soit t'es menteur, soit ils sont, là.
Soit c'est une merveilleuse mise en scène pour notre sujet du jour. Ça fait peut-être partie des possibles.
Quel théâtre d'été. Des acteurs, nous sommes. Mais sans joke, par exemple, t'as pas tort sur le fait que je suis un peu sonné. Puis je te l'ai dit ce matin quand on s'est parlé. Moi, je fais partie de ceux qui accueillent avec le revers de la main les effets de tout changement. Et on dirait que chaque fois qu'il se passe quelque chose, en novembre, il fait lettre, dépression saisonnière, je suis tout le temps comme... C'est-tu un effet placebo? C'est-tu nous autres qui se rendent ça dans la tête? Je suis tout le temps un peu sceptique. Ben, en même temps, j'ai l'impression de le sentir.
Hier, avec le soleil qui se couche excessivement tôt, à 6h45, à 18h45, je suis allé me coucher dans mon lit.
Mais j'en doute pas. Puis 20h, moi.
À 18h15, je suis allé pour y aller. J'ai comme fait, voyons, ça n'a pas de bon sens. Il est 6h, il est même pas 6h30, Simonac.
Mais c'est brûlant. Hier, c'était la première fois que dans le show, à partir de comme 4h, il faisait noir. Puis ça fait vraiment un changement, c'est vrai. Mais c'est ça. Je fais partie de celle qui me dit, voyons, bat tout le derrière, là, prends ta vitamine D puis avance, là, tu sais. Sauf qu'on se plaint pas nécessairement dans le vide. Du moins, pas de ce que je comprends. Puis, j'écoute les gens autour de moi, tu sais, Gab Marino, avec qui on fait le retour cette semaine. Il nous disait ce matin dans la conversation, mes enfants sont tous fuckés avec le changement d'heure. Puis je me dis, hey, c'est juste une heure. À ce point-là, est-ce que vous le sentez? 88-971-1021. On va aller chercher des réponses avec une pause. C'est ça qu'on fait dans ce temps-là quand on ne sait pas trop de quoi on parle. Ça fait partie du coup de blues de novembre, le changement d'heure. Déjà qui fait l'être que le moral est plus bas. La luminosité, tout ça. Mais le sommeil. Le sommeil, à quel point c'est impacté. Dans ce temps-là, on va toujours chercher une invitée qu'on aime beaucoup dans l'open mic, Dr Maude Bouchard, qui est neuropsychologue spécialisée en sommeil. Maude, bon matin.
Bonjour.
Avant de plonger dans le vif du sujet, là, est-ce qu'on se plaint pour rien ou le changement d'heure, ça a vraiment un effet réel sur le corps?
Oh là là, ça en a un effet. Mais après, il y a des différences individuelles. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui se demandent même pourquoi on en parle parce qu'ils ne le ressentent pas trop. Et il y en a d'autres pour qui c'est bien difficile. Puis ça peut durer, je dirais même jusqu'à quelques semaines pour certaines personnes.
Hey, OK, c'est beaucoup, là.
Effectivement.
Est-ce que ça se peut-tu qu'on le sente en vieillissant? Dans le sens que moi, je réalise cette année pour la première fois que, oh, pelaille, ça me prend peut-être un peu plus de temps à m'adapter comparé à des années antérieures où, justement, dans ma tête, c'était un peu une construction qu'on se faisait, là.
Bien, ça, c'est vraiment intéressant parce que je pense qu'il y a des gens qui diraient que, par exemple, leurs enfants, puis vous l'avez mentionné, hein, vous avez des gens que vous connaissez, les enfants, c'est plus difficile parce que là, on change leur routine. Mais en vieillissant aussi, l'adulte, c'est comme si notre horloge biologique, là, elle est faite pour s'adapter, sauf qu'en vieillissant, elle est un petit peu moins flexible aussi. Donc, c'est vrai qu'on s'en remet peut-être un petit peu moins bien.
J'ai déjà entendu que quand on parle de décalage horaire, tu sais, mettons, tu vas en voyage, puis là, tu reviens du voyage.
Jet lag.
C'est le jet lag. T'en remettre, c'est le nombre de jours, le nombre d'heures, ben c'est ce nombre de jours-là. Mettons que tu vas quelque part, que le décalage est de 6 heures, ben ça va te prendre 6 jours pour t'en remettre, ça. Première partie de la question, si tu veux, puis de deux. Donc, si un changement d'heure, c'est une heure, il me semble que ça devrait pas nous affecter tant que ça.
Ouais, en fait, oui, c'est vrai pour quand on voyage, c'est-à-dire que le principe général, là, c'est que bon, plus il y a d'heures, plus ça va être long. Après, ça dépend aussi si on va d'est en ouest ou le contraire, si on avait besoin de retarder notre horloge ou de l'avancer. Fait qu'il y a plein d'impacts de ça. Puis le changement d'heure, ben c'est vrai qu'on se demande parce que bon, une heure, pourquoi on aurait des impacts de cette heure-là. Mais il faut savoir que Il y a trois éléments là-dedans. Le premier, c'est qu'on a une petite horloge biologique dans notre cerveau qui gouverne nos cycles éveil-sommeil. Donc, on a vraiment des hormones qui sont sécrétées pour qu'on dorme la nuit. Puis, on en a d'autres pendant le jour qui nous aident à être réveillés, qui nous aident à être vigilants. Et là, cette horloge biologique-là, c'est vraiment une petite structure dans notre cerveau, ben elle se synchronise avec des indices extérieurs. Le meilleur synchroniseur qu'il n'y a pas, c'est les indices de lumière. Donc, la lumière, quand est-ce qu'elle apparaît le matin, quand est-ce qu'elle diminue le nombre d'heures de lumière pendant la journée. Donc, ça, c'est important. Quand on change l'heure, ben là, il y a un troisième élément qui rentre en compte, c'est ce qu'on appelle notre horloge un peu sociale. C'est-à-dire que nos activités, l'heure de notre travail, l'heure des repas, l'heure où est-ce qu'on socialise, va aller de pair avec la lumière dans la journée. Puis quand on change l'heure, ben là, ce qui arrive, c'est que notre horloge biologique dans notre cerveau vient désaligner, si on veut, avec notre horloge sociale, puis l'horloge de la lumière. Puis ça peut avoir des conséquences sur notre santé psychologique, comme on peut voir des fois en novembre, puis sur notre santé physique aussi. Mmh.
Qui est le plus affecté? C'est-tu, mettons, les enfants, les personnes âgées, les travailleurs de nuit?
Bien, je pense qu'il y a plein de gens qui sont affectés. On le voit chez les enfants, surtout parce que c'est leur changement d'horaire. Hein. Les enfants, ils dorment bien avec une structure, un horaire de sommeil, tout ça. Mais il y a aussi, bon, il y a plein de populations. Il y a les gens qui vivent de l'insomnie déjà à la base. Puis là, on parle de au moins ben 10 à 20 % de la population qui souffre d'insomnie chronique. Donc, eux ont déjà des défis par rapport à leur sommeil. Fait qu'on leur en ajoute un supplémentaire. Ça peut amener du stress qui peut amener de l'insomnie. Mais même le désalignement peut aussi avoir un impact. Je pense aussi aux gens qui ont des horaires atypiques, là, puis je vous embarque dans le lot, les gens qui travaillent dans les médias, mais il y a les premiers répondants, il y a des camionneurs, des camionneuses, les gens qui travaillent en usine, eux déjà challengent leur horloge biologique au quotidien quand ils doivent travailler de soir, de nuit, faire des rotations, des corps sur appel, puis là on change l'heure en plus, donc ça peut avoir un impact chez ces populations-là. Puis sinon, ben je pense aussi à tout l'aspect psychologique, c'est-à-dire des populations qui sont peut-être en épuisement professionnel ou qui souffrent de dépression en ce moment, qui ont plus d'anxiété, ben ça, c'est des changements comme ça, des éléments dans notre cycle éveil-sommeil qui peut aussi venir affecter l'humeur, par exemple.
Puis ça, mon Dieu, on a déjà l'impression qu'elle est affectée par tout ce qui est tant mauvais à l'extérieur pendant le mois de novembre. Puis ça, c'est-tu vrai? Je sais que c'est peut-être moins, tu es plus spécialisée en sommeil, là. Mais quand on parle de blues de novembre, justement, je me dis, tu parles de baisse de luminosité. Ça peut-tu amplifier les fameux symptômes de déprime saisonnière? C'est une vraie affaire?
Oui, ben en fait, la dépression saisonnière, hein, c'est quand même assez connu, répertorié, étudié. Il y a des gens on en parle beaucoup aussi parce que les gens la ressentent. Ça peut être lié avec le manque de lumière puis plein d'autres affaires, là, mais je dirais que une des choses qui est intéressante là maintenant, là, avec le changement d'heure qui vient de se passer, c'est qu'on retourne à l'heure bon normale, si on veut, et il y a plus de lumière le matin. Donc oui, c'est vrai, on a moins de lumière en soirée, sauf que la lumière le matin, là, pour notre cerveau, pour notre corps, pour notre cycle éveil-sommeil, puis cette petite horloge biologique-là dont je vous parlais, bien, c'est bon. Donc ça me fait du bien, puis de s'exposer à cette lumière-là le matin, de prendre le temps, si on est capable d'aller un petit peu dehors ou de prendre notre café, notre breuvage matinal à côté d'une fenêtre avec bien de la lumière, ben ça peut être bon pour nous. Puis j'ajoute une couche, parce qu'on a parlé de dépression saisonnière, on a parlé d'humeur. Si on est quelqu'un, qui se lève avant le lever du soleil ou qui travaille dans un environnement sans fenêtre ou vraiment où il y a juste de la lumière artificielle, ben peut-être que ça peut valoir la peine même d'utiliser des lampes de luminothérapie le matin. Donc, juste donner le signal à son cerveau que c'est le jour, qu'on sécrète les hormones pour le jour, puis s'exposer à la lumière.
Ça fait une vraie différence. C'était ça ma prochaine question concernant les fameuses lampes de luminothérapie. C'est pas de la bullshit marketing, là. Ça peut vraiment aider.
Là, il semblerait, oui, il y a des études qui montrent que ça peut aider non seulement pour le sommeil aussi, donc le fait de s'exposer à la lumière le matin puis de la diminuer, là, cette lumière-là, en soirée pour que le cerveau comprenne que c'est le temps de sécréter ses hormones de sommeil. Il semblerait que ça peut avoir un impact chez certaines personnes.
Lequel des changements d'heure est pire que l'autre? Là, on revient à l'heure normale, puis j'ai l'impression que ça, il y en a qui préfèrent ce changement d'heure-là, il y en a qui préfèrent l'autre. Des fois, je pense que ça peut dépendre de ton horaire et ton rythme de vie aussi, mais scientifiquement, y en a-tu un qui a plus d'impact que l'autre?
Ouais, mais le changement d'heure autour d'une table, ça peut créer des bonnes discussions. Des fois, on penserait que c'est un sujet qui est peut-être moins intéressant mais dès qu'on part ça, là, je pense qu'il y a des opinions vraiment différentes d'une personne à l'autre. Vous avez bien raison. Je dirais que au printemps, là, la chose qui est le pire avec ce changement d'heure-là, c'est le fait qu'on part une heure. Puis là, on est une population qui est déjà souvent beaucoup en dette de sommeil parce que peut-être qu'on ne priorise pas tout à fait, parce que à cause du stress, à cause de nos horaires de travail, peu importe. Et donc là, on enlève une heure de plus. Puis la privation de sommeil, on pourrait penser qu'une heure, c'est pas tant que ça, mais ça a des impacts sur la santé, ça a des impacts aussi quand c'est chronique. Donc au printemps, c'est vraiment ça qui se passe, je pense. À l'automne, typiquement, on dirait, ben, on gagne une heure, ça peut faire du bien, mais il y a des études qui démontrent que c'est pas tout le monde qui va la dormir cette heure-là de plus, déjà. Et, le changement, comme je vous disais, avec l'horloge sociale, avec la luminosité puis le cerveau qui essaie de s'ajuster, ça a quand même un coût.
La dette de sommeil dont tu parles, qu'on a déjà comme société, ça se rattrape-tu, ça, cette dette de sommeil-là, où moins tu dors, plus tu accumules la dette puis t'es pogné avec?
Ça, c'est une question à 1000$, je pense. en fait, ça, notre cerveau, notre corps, là, il est fait pour s'ajuster. Puis là, moi, je travaille beaucoup avec des gens qui vivent de l'insomnie. Donc, j'ai toujours mon biais de, comme si je parlais à ça, mais il y a des gens qui n'en vivent pas. Là. Mais pourquoi je dis ça, c'est que quand on vit de l'insomnie, il faut, oui, prendre soin de son sommeil, oui, avoir une bonne hygiène de sommeil, mais ça va plus loin que ça. Il faut aussi être capable, des fois, de se détacher du résultat puis de pas trop y penser. Parce que l'insomnie, le sommeil, ça devient quelque chose de gros. Puis là, plus on stresse, moins on dort. Puis bref, il y a toute une patente autour de ça. Mais tu sais, pour les gens qui dorment bien, qui dorment normalement, je suis en train de me perdre là, dans la question. Rappelle-moi ta question.
La dette de sommeil, est-ce que ça se rattrape? M'entends-tu, Maude?
T'entends encore, Audrey?
Oh, OK, on s'entend. J'ai eu peur qu'on se perde.
Non, c'était... t'entends très bien. Je ne vous ai pas perdu de mon côté. Fait que là, on parle de la dette de sommeil chez cette population-là. Je dirais que ça se rattrape parce que notre cerveau, notre corps, il est fait pour s'adapter. Sauf que on peut pas rattraper 10 ans, tu sais, à peut-être couper dans notre sommeil tout le temps. si pendant la semaine, il y a une nuit où on a moins dormi, bien, la nuit suivante, notre sommeil il va devenir plus profond. Il va vraiment, on va avoir un rebond de sommeil qu'on appelle. Et ça, ça peut faire du bien. Le rebond de sommeil est moins efficace en vieillissant, mais ça se rattrape, sauf que quand c'est chronique, cette privation de sommeil-là, ben ça a des impacts, peu importe.
Ça peut-tu être mauvais? Tu sais, en ce moment, je racontais au début de la discussion qu'hier, à 18h15, j'ai failli aller me coucher parce qu'il faisait noir, puis on dirait que j'étais brûlé. Puis ça peut-tu avoir des impacts négatifs de se coucher trop de bonne heure, puis encore plus, un peu tout venir chambouler? Tu sais, on est-tu mieux de, même si ça peut être tentant de se coucher plus tôt, vu qu'il fait noir plus tôt, de garder notre rythme actuel, parce que sinon, on va être encore plus mêlé?
Je pense que des fois, ça vaut la peine d'écouter son corps. Puis des fois, notre corps, il nous montre qu'il y a un besoin peut-être plus grand dans certaines périodes de sommeil. Donc, c'est pas nécessairement mauvais. Après, si on est quelqu'un justement qui souffre d'insomnie, qui a de la misère avec son sommeil, que ce soit tu sais de s'endormir ou de se réveiller super tôt sans être capable de se rendormir, ben là, des fois, d'avoir un horaire qui va être un peu plus régulier, ça peut être aidant.
J'ai envie de te demander, avant qu'on se laisse... Ben, en fait, c'est sûr que là, chaque fois qu'on parle de ce sujet-là, je regarde les textos, puis ce qui sort sur le tweet, généralement, on nous demande des solutions. Hein, je ne sais pas à quel point il y en a des magiques. Mais pour les parents, mettons, comme Gab, là, qui dit « Mon Dieu, mes enfants sont tous fuckés avec le changement d'heure », y a-t-il des petits trucs pour aider à reprendre un rythme un peu plus stable avec les jeunes?
Ben déjà, faut savoir que après quelques jours, après, ça risque de revenir. Là, c'est sûr qu'on est après le fait. Des fois, ce que je vais dire, c'est que avant, quelques jours avant, surtout avec les enfants, là, les adultes, on n'a pas nécessairement besoin de faire ça, mais avec les enfants, on peut peut-être décaler 10-15 minutes, tu sais, de le faire sur plusieurs jours, ce changement-là. Il y a certains que ça peut aider. Mais sinon, là, maintenant, pour tout le monde, je pense que on l'a bien dit, faut s'écouter. Si on sent qu'on a besoin de dormir un petit peu plus, que ce soit, puis il y a des gens qui, puis là, je parle même pour les adultes, là, mais faire la sieste 15-20 minutes en après-midi si on a besoin, ça peut faire du bien. Faire de l'exercice physique aussi, ça réveille, ça fatigue le corps, mais ça réveille l'esprit. Donc, si on se sent plus somnolent, ben de bouger, ça peut nous faire du bien. De s'exposer à la lumière le matin aussi. Donc, c'est des trucs de base, mais qui peuvent vous aider à ce que cette transition-là soit peut-être un petit peu plus facile.
Maude, je termine avec ça. Je te mets sur le spotlight, étant donné que tu es spécialiste. Est-ce qu'on devrait, selon toi, l'abolir, le foutu changement d'heure, une bonne fois pour toutes?
Je dirais oui. Faisons ça. Après, bon, moi, j'aurais pu ma gig de radio deux fois par année, là. Fait que ça mais pour la population, ça devrait être pas pire.
On va trouver des raisons de se parler, c'est sûr. Docteur Maude Bouchard, neuropsychologue spécialisée en sommeil, c'est toujours un plaisir de t'avoir en onde.
Merci à vous.
Bye. Merci, salut. Bonne journée.
Je pensais qu'on avait décidé de l'enlever, le changement. Il me semble, l'année passée, on n'avait pas dit qu'on l'enlevait. Non, on faisait une consultation.
Oui, je pense que c'est ça. Mais ça revient tout le temps, ça. Je dis, c'est un sujet éternel.
Mais là, c'était comme officiel. Là. Il me semble que tu pouvais aller sur un site web du gouvernement puis dire oui au
changement.
Donner
ton avis, consultation publique.
Puis là, on veut-tu rester à l'heure normale ou être à l'auteur? Puis...
Mais là, moi, je voudrais être à l'heure du site, là maintenant, là. C'est le pire dans l'année qu'on va vivre, là, oui. Tout de même. Moi, je resterais là. Je ne perdrais pas une heure de sommeil au printemps. Là.
Non, c'est ça.
Okay. Je trouve ça fascinant parce que je m'étais jamais sentie affectée. Puis encore une fois, 88-971-101, ça vous rentre-tu dedans? La majorité des gens disent oui. Puis la question pour moi est importante de dire, en vieillissant, c'est-tu plus tough? Parce que c'est la première fois, moi, que je le ressens un peu. Puis c'est peut-être un addon aussi, mais moi, on dit que j'ai mal dormi.
T'es rendu vieille.
Non, je ne dirais pas vieille. J'étais encore une petite jeunesse. Non, mais il y a ces petits changements-là que tu observes avec le temps. C'est que ce soit, mettons, l'alcool... plus tough le lendemain, ouais. Le sommeil, je sais pas.
OK, j'aimerais pas savoir ton âge.
Non, franchement!
Je voulais t'amener ailleurs, Audrey, pour conclure l'open mic aujourd'hui. Samuel Montembeau qui roule à soir, ça n'a pas de bon sens.
Ça n'a pas de bon sens.
Non, c'est pas vrai, c'est parce que c'est un... Puis c'est vrai, en passant, pour ceux qui pensent que c'est une joke, c'est vrai que c'est Samuel Montembeau qui goal à soir malgré sa piètre performance de samedi. Moi, je trouve vraiment que ça n'a pas de bon sens.
Ça n'a pas de bon sens parce qu'il a mal joué?
Ben c'est parce que c'est le pire gardien de la LNH depuis le début de l'année. Puis là, tu le fais jouer deux... Ben c'est statistique, là, c'est des faits. Puis tu le fais jouer deux matchs de suite alors que Dabush mériterait vraiment d'être le vrai numéro 1 officiel. Mais qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas Martin Saint-Louis. Puis c'est un extrait que vous avez déjà fait jouer hier dans le retour, mais je trouvais que c'est un extrait qui pouvait amener une belle petite discussion open mic. Claude Villeneuve, puis tu sais, là, c'est politique, mais vous allez voir où je vais en venir. On écoute Claude Villeneuve hier, un extrait de sa conférence de presse de lendemain d'élection, alors que son parti a été rayé de la carte, qui a fait une piètre performance, qui n'a pas été élu, bon, non seulement pas maire, pas via son colistier non plus, on l'écoute.
Je pense en quelque sorte, mon sort a été scellé quand j'ai décidé que je ne prendrais pas le train anti-tramway. Ça aurait été une option. Il y a un moment où je le voyais, qu'il y avait un ballon à ramasser, qu'il y avait une place à prendre, que... c'est encore une conclusion, hein, c'est que... Tu sais, à ce jour, il y a jamais... Il y a beaucoup de gens qui sont contre le tramway au Québec, mais à ce jour, il n'y a pas encore eu des acteurs politiques crédibles, organisés, professionnels, qui ont été capables d'organiser cette tendance-là. Puis c'est ce qui fait en sorte que, si elle existe dans la population, elle reste marginale au sein de nos institutions. Puis je l'ai vu à un moment donné qu'il y avait cette place-là à prendre, puis j'ai choisi de ne pas le faire parce que, puis c'est comme ça que je l'avais articulé aux gens de mon équipe, si j'ai le choix entre être encore membre du conseil municipal dans 4 ans ou qu'il y ait un tramway qui circule à Québec dans 10 ans, je choisis le tramway parce que c'est ça qui est bon pour mes filles.
Ces 15 dernières secondes-là de cette cote-là, je trouve ça tellement humain et tellement beau, puis des politiciens qui auraient viré leur veste de bord pour dire « Hey, l'opportunité présentement pour moi, Claude Villeneuve, là, ben, c'est d'être contre le tramway. Ben, je vais montrer que je suis plus professionnel que Stéphane Lachance, que sa maman. Oui. » Puis ça aurait sûrement été payant.
Puis c'est vicieux, la politique, parce qu'à un certain point, tu veux tellement être au pouvoir, tu veux tellement peut-être, si je suis optimiste, vouloir changer les choses, que tu es prêt à tout. Même à mettre justement tes valeurs et tes principes
en jeu,
de côté. Honnêtement, chapeau à Claude Villeneuve. Moi, cet extrait-là m'a quand même donné des frissons. J'ai beaucoup d'admiration pour ce gars-là. Tu sais, à la base, faut se souvenir, là, peu importe ce qu'on pense de la campagne qu'il a fait, peu importe ce qu'on pense des derniers mois, il voulait pas nécessairement être à la tête de son parti, souvenons-nous.
Il l'a fait pour son équipe.
Oui,
pour,
il a pris la balle. Oui,
pour mener cette équipe-là du mieux qu'il pouvait, possiblement en sachant que ça allait pas virer comme il voulait. Mais il l'a fait, puis il a mis de son cœur, puis il a mis de son temps là-dedans, puis il a fait une belle campagne. Fait que je trouve ça un peu...
C'est plate parce qu'on n'a pas entendu bien parler de sa campagne, étant donné qu'il y a eu ombrage avec sa maman, avec Stéphane Lachance, puis tout le chichi qu'on a vu un peu partout dans les médias. Là.
Puis je trouve ça dommage que beaucoup critiquent la campagne de Claude Villeneuve, alors que c'est un gars qui en a fait une belle, à mon avis. C'est un gars qui est resté très fidèle à ses convictions. Fait que oui, on va pouvoir remettre en question bien des affaires sur la carrière politique municipale de Claude Villeneuve, mais moi d'entendre un gars humain de même qui dit hey, moi pour mes filles, là, dans 10 ans, qu'est-ce que je veux? Je veux-tu avoir passé 4 ans de plus au conseil municipal de la ville de Québec?
Ou je veux un projet qui est installé et qui est établi?
Exact, un projet auquel je crois pour que mes filles puissent se déplacer en tramway à Québec. Pensez ce que vous voulez du tramway, pensez ce que vous voulez de Claude Villeneuve, mais là-dessus, là, chapeau.
Oui, puis là, on parle pas de l'opposition. Tu sais, il y a Stéphane qui nous dit sur le Twitch, il a jamais rien fait, il est jamais allé au front dans l'opposition pour contrer Marchand pendant 4 ans. C'est pour ça qu'il sera jamais maire.
C'est pas ça le point, là.
Le point, il est pas là pantoute. Moi, je m'en fous de ce qu'il a fait dans les 4 dernières années. C'est derrière, regarde, puis lui, là. C'est Stéphane Lachance avec Respect Citoyen qui est la nouvelle opposition depuis dimanche soir. Mais je pense que l'humain, le gars derrière, il a donné ce qu'il avait à donner. Puis il y a un autre extrait qu'on a fait jouer hier dans lequel il dit qu'il ferme pas la porte à autre opportunité politique. Ce que je trouve hot aussi.
Bien, ça sent le Parti québécois à plein nez. Là. Il a déjà été un membre du Parti québécois. Puis,
mais moi, s'il suit ses convictions de même puis qu'il a envie de continuer de faire de la politique, moi, je l'écoute. Pour vrai, je le suis là-dedans. Je trouve ça super intéressant. Fait que non, t'as raison sur le fait que... Écoute, encore une fois, chapeau, énormément d'admiration. Je trouve ça hot parce qu'il y en a peu qui l'auraient fait, ça.
Salutations à Claude Villeneuve, s'il est à l'écoute. Plus tôt dans le show, on a parlé à Charles Fecteau, 18 ans, candidat défait à la mairie de Saint-Lambert de Lauzon. Ouais. Je sais pas, Audrey, si t'avais pogné ma première conversation avec lui il y a quelques semaines durant le début de sa campagne.
J'en ai entendu parler pas mal,
Ben, c'est ça qui m'a porté à le réinviter aujourd'hui, c'est qu'au début de la semaine, j'ai trouvé ça cool. Il y a des auditeurs qui m'écrivaient « Hey, finalement, là, le jeune de 18 ans à Saint-Lambert de Lauzon, as-tu gagné? »
Ben oui.
Puis, fait que là, je suis allé voir. Finalement, Olivier Dumais a gagné avec 51% des votes. Charles Fecteau est allé en chercher 47. Tu sais, tantôt, j'ai une de mes questions parce qu'on y a reparlé. C'était, à un moment donné, t'as-tu pogné un peu à la chienne? Tu sais, dans le style, OK, là, je me lançais pour créer un débat public puis que le maire passe pas sans opposition.
Mais là, ça aurait pu passer, là.
Il m'a donné une longue réponse puis il a fini avec, tu sais, pour répondre à ta question clairement, oui, un bout de jeu un peu la chienne.
Lui, il a quoi, 18 ans, 19 ans?
Il a 18 ans puis il disait, tu sais, ça vient avec un salaire, je pense, c'est 85 000 $ Puis là, il disait, moi, je vis chez mes parents, 85 000 $ Ma première question, c'est, OK, ça, c'est sûr, j'ai le salaire-là, est-ce que je le descends? Le gars a tellement de tête sur ses épaules puis je donne le scoop, là, vous allez le réentendre à Boulevard pour jaser politique municipale dans les prochaines semaines.
Mais je serais curieuse de l'entendre. C'est déjà sur le blvd.fm?
Ça va l'être à midi.
Parce que je serais curieuse de l'entendre. T'sais, on parle souvent du futur de la politique, puis qui veut encore en faire? Régis Labeaume en a fait un documentaire, Maudine. Mais de savoir qu'il y a des jeunes comme ça à 18 ans. Entre toi puis moi, Max, puis je sais que tu es en même place que moi, à 18 ans, on n'était pas bien ben dans cette lignée-là, puis ce chemin-là, toi puis moi. Là. Fait que de voir qu'il y en a qui osent, puis qui ont cette tête-là sur les épaules, puis qui ont des idées, je trouve comme ça rafraîchissant puis rassurant.
Puis dans les prochaines minutes, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va jaser à Olivier Dumais. Ça, c'est le maire qui a été réélu à Saint-Lambert de Lauzon avec 51% des voix, 101 votes seulement devant Charles Fecteau. Lui qui avait un peu décidé littéralement de ne pas faire campagne, qui n'avait pas nécessairement pris au sérieux l'entre-guillemets menace que représentait le jeune Fecteau. Fait que bien hâte de jaser avec,
Olivier.
Ben oui, c'est ça le point de la conversation. Fait que dans les prochaines minutes, dans le Point de Max à Boulevard. Merci beaucoup Audrey pour l'open mic.
Allez, à demain.
Le Point de Max. Jusqu'à midi, le Point de Max.
Vous écoutez le Point de Max à Boulevard 102.1. 11h33 minutes. S'il y a quoi que ce soit, 88-971-1021 pour me rejoindre par texto. Vous avez d'ailleurs été nombreux à le faire un peu plus tôt dans le show quand je me suis entretenu avec Charles Fecteau, 18 ans, candidat défait à la mairie de Saint-Lambert-de-Lauzon. Un jeune de 18 ans qui est franchement impressionnant, qui s'exprime super bien. Puis le fait à la base aussi de se présenter dans une course à la mairie à seulement 18 ans, ça en a impressionné plus d'un dans les dernières semaines. Et là, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Dumais, qui est le maire réélu à Saint-Lambert-de-Lauzon, qui était donc l'adversaire de Charles Fecteau. Monsieur Dumais, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez été réélu donc avec 51% des voix, 101 votes devant Charles Fecteau, ce jeune candidat de seulement 18 ans. Est-ce que ça a été une surprise pour vous que ça a été aussi serré?
Oui, effectivement. Oui, c'était une surprise, mais écoute, il a fait une belle campagne, puis ce que je m'aperçois, c'est qu'il a fait sortir le vote des jeunes, puis tu sais, c'est comme j'ai écrit le soir même là, pour le féliciter, c'est tout en son honneur, parce que les jeunes, ils en font un relais, mais il faut aussi que les jeunes s'intéressent à la politique puis qu'ils aillent voter. Puis c'est ça aujourd'hui le défi, hein, comme on dit en politique. Là.
Sentez-vous que la population a quand même voulu vous lancer un certain message? Allez-vous être plus à l'écoute de la population en général ou peut-être justement des jeunes?
Bien, tu vois, ça fait 8 ans moi, que je suis maire. Quand j'ai embarqué en 2017, écoute, Saint-Lambert avait beaucoup, beaucoup à faire. On a fait énormément, puis je pense qu'on peut être fiers de tout ce qui a été fait ensemble, en équipe. On était beaucoup à l'écoute. Est-ce que après 8 ans, faut continuer de taper le clou puis de faire peut-être une consultation, ce que je m'enligne pour faire après les fêtes, pour voir les besoins? Parce que quand on grossit vite, puis il y a une expansion qui se fait rapidement avec tout ce qui se passe autour, comme la ville de Lévis présentement, leur enjeu, ben là, il y a du débordement. Fait que Saint-Lambert, on sent la pression. Fait que des fois, on est les deux mains ici dans la poutine, on connaît tous les dossiers, ça va bien, mais surtout de bien communiquer avec la population pour qu'ils soient au courant de ce qu'on fait, parce que on en a vraiment fait beaucoup, puis Saint-Lambert, je pense qu'on se démarque, puis c'est peut-être ça qui a joué un peu contre moi, c'est que les gens, ça va quand même, selon ce que j'entends sur le terrain, puis on me félicite souvent, pas juste moi puis le conseil, fait que ça va bien, puis quand les gens, ça va bien, ils vont moins voter. Puis les gens qui sont moins satisfaits parce qu'il y a des dossiers qui ont moins marché ou qu'il y a des projets qui comprennent moins puis qui sont moins d'accord, ben là, ils vont voter puis ils votent contre le maire ça, qui est présentement en poste.
Et est-ce qu'avec le recul, vous auriez peut-être dû faire campagne un petit peu plus, aller davantage sur le terrain?
Effectivement, ça aurait pu, on dit, moi j'ai interpellé beaucoup de gens qui m'ont écrit, est-ce que j'aurais pu encore plus faire de porte à porte, me promener avec du recul, c'est sûr que ça aurait pu être mis un peu plus d'avant, effectivement.
Votre adversaire qui déplorait un manque de rigueur fiscale de votre part, citant notamment le projet d'Arena, puis tu sais, juste là par texto, il y en a un qui vient de rentrer qui parle de l'Arena, du projet d'Arena qui serait une honte pour citer le texto. Là. Est-ce que les citoyens doivent craindre des augmentations de taxes importantes éventuellement s'il y a des dépenses importantes comme ça?
Non, du tout. En 7 ans, on n'a pas monté au niveau de en haut de 3, toujours gardé en bas de 3% depuis que je suis là, le niveau de taxation résidentielle. Ça va être encore de même temps que je vais être là. Le projet d'Arena, moi j'appelle ça, on est béni d'avoir ce projet-là. C'est 100% privé. Il n'y a rien présentement qui se fait au Québec, puis il manque d'or dans Chaudière-Appalaches d'hockey pour le hockey féminin, la ringuette. C'est un projet qui aurait dû être peut-être dans une plus grosse ville, mais à Saint-Lambert, on est chanceux que les promoteurs viennent, puis présentement, ils vont nous offrir des services qu'on n'est pas capable de se payer. Exemple, une salle multifonctionnelle qu'ils vont faire. Elle nous en aurait coûté 15 millions. Ça aurait été un paiement par année juste pour la salle. Là, le privé l'a fait. Il va la gérer, il va l'entretenir, il va faire le ménage, puis tout ça. Puis nous autres, on va profiter des services dans une entente qui est vraiment bien scellée. Là. C'est sûr qu'un coup que le projet va être levé puis que ça va démarrer, les gens vont voir ça d'un autre œil, mais... je te dirais qu'il y a eu 3% des gens qui sont venus signer, qui étaient moins d'accord. Est-ce qu'il y en a plus qui auraient peut-être venu signer, qui sont pas venus, ou d'autres qui ça leur dérangeait pas? Mais je dirais que les gens sont pour le projet parce qu'ils voient qu'on a des besoins grandissants, puis que publiquement, ça coûte tout le temps trop cher. On attend toujours des subventions du gouvernement, puis là, le gouvernement n'a plus d'argent au niveau provincial, fait qu'on réalise pas les projets qu'on devrait avoir. Fait que moi, je pense que la meilleure solution pour l'avenir des municipalités et des villes, c'est de travailler avec le privé pour accélérer les dossiers, mais aussi que ça coûte moins cher aux contribuables.
Puis selon les calculs que vous avez faits avec le coût de location, qui est quand même important, ça revient quand même plus avantageux pour vous?
Oui. Bien, tout a été calculé avec tout ce qui est les croissances présentement, les bâtiments, le parc industriel qui, je te dirais, c'est mon coup de circuit, ça. Contrairement à ce qu'il y en a qui ont pu dire là dans la campagne, là, le parc industriel, là, c'est vraiment là que la business se passe, là, au niveau des taxes, l'emploi, des nouveaux résidents qui vont consommer, qui vont venir s'établir, là. Puis on est chanceux d'avoir un beau parc industriel qui nous amène la possibilité d'augmenter les services, puis de pouvoir permettre un aréna, mais qui amène de belles taxations là, pour la municipalité.
Au 418-971-1021, un texto qui me dit « Il faut absolument que tu demandes à Olivier Dumais s'il va se représenter au provincial et abandonner son poste de maire.
» Oui, c'est une bonne question. Elle m'a été posée souvent, puis je comprends les gens, parce qu'il y en a beaucoup qui ont... En 2022, qui ont voté contre moi au niveau provincial parce qu'ils voulaient pas me perdre. Il y en a aussi présentement qui veulent pas me perdre. D'autres, peut-être que oui, hein, c'est ça la politique. Mais est-ce que je vais me représenter? Je le sais pas aujourd'hui pour être très transparent parce que j'ai pas pris de décision. Puis c'est M. Duhaime, le chef du Parti conservateur, qui a le dernier mot, puis le parti. Fait que, moi, présentement, je me concentre à la mairie. J'ai des dossiers, des gros dossiers à finir. Puis je suis pas rendu là au niveau provincial, là, puis pas vraiment. Puis pour l'instant, c'est pas dans mes plans là, de y aller. Je vais me concentrer de ce que j'ai à faire dans le day-to-day, parce que c'est beau une campagne, c'est beau se présenter, c'est beau bien parler, puis dire des choses des fois qui sont pas nécessairement toujours vraies, mais quand tu arrives les deux pieds dans l'hôtel de ville, puis tu rencontres des promoteurs, puis qu'il y a des meetings, des rencontres, puis c'est un autre game, là. Tu sais, c'est une ville, Saint-Lambert, puis faut gérer ça... de manière intelligente, pas en équipe, puis c'est un bon défi qu'on a à Saint-Lambert présentement avec la croissance, là.
Mais vous fermez pas la porte, donc, à une candidature pour le Parti conservateur?
Non, je ferme pas la porte. Ce qui est ouvert présentement, j'ai pas pris de décision, puis je suis pas rendu là non plus, là. Puis ça se peut très bien que je me rende pas là non plus, là. On a toutes nos vies personnelles, hein, puis on le sait que la politique municipale puis provinciale, c'est deux mondes, puis... Est-ce que c'est un défi que je veux relever puis je veux y aller? Je suis pas rendu là encore, je n'ai pas pris de décision.
C'est quoi les premiers grands dossiers, Olivier Dumais, sur votre table de travail là, en étant de retour à la mairie officiellement?
Ben, nous autres, on a un enjeu que beaucoup de monde, on est comme une plaque tournante à l'envers, qu'il y a beaucoup de gens des municipalités voisines qui passent par ici. Ça fait qu'il y a l'enjeu de trafic sur la rue principale. On travaille un dossier avec le gouvernement. Ça, c'est le plus gros enjeu là, avec la MTQ pour agrandir la rue principale, rajouter des feux, des trottoirs pour que la sécurité soit améliorée. Il y a des routes secondaires qui sont vraiment dus, là, puis qu'on attendait des subventions, puis qu'on n'a pas, fait qu'on va aller de l'avant. Il y a tout l'enjeu aussi là, des services de, pour les personnes âgées, pour les familles de loisirs, tout ça qu'on veut continuer pour garder nos familles à Saint-Lambert puis offrir les services de proximité.
Olivier Dumais, maire réélu à Saint-Lambert-de-Lauzon, félicitations pour votre réélection puis merci d'avoir pris le temps.
Merci beaucoup, bonne journée.
Bye bye. Dans les prochaines minutes, Pascal CV vient faire son tour en studio pour la fin du Point de Max. Le Point. Vous avez peut-être eu l'occasion d'y goûter la Gravel édition 10 ans Boulevard. On célèbre nos 10 ans Boulevard 102 avec la présentation, la sortie d'une bière exclusive, la Gravel édition 10 ans Boulevard, brassée en collaboration avec Maltco, une brasserie de Charlebourg qui est reconnue pour ses produits accessibles et de qualité. La Gravel, c'est une blonde lager, 4,4% légère, c'est ultra rafraîchissant, ça se boit super bien avec une petite game de hockey. Et pour chaque bière vendue, il y a une partie des profits qui est remise à la Bouchée généreuse, un organisme qui aide à nourrir les familles dans le besoin. Vous le savez, à Boulevard, on se colle beaucoup à la Bouchée généreuse. Fait que c'est notre façon de célébrer en redonnant du même coup à la communauté. La Gravel, tu peux trouver ça où? Ben, chez les dépanneurs Chaloux ou directement à la brasserie Malco au marché Jean Talon de Charlebourg. Donc, je vous invite à boire de la bonne gravelle pour la bonne cause et pour le bon plaisir de vos palais parce que pour en avoir bu une coupe déjà, elle est absolument succulente. Petit tour au sport. Le Canadien de Montréal qui a annoncé que c'est... Samuel Montembeault qui sera devant le filet ce soir face aux Flyers de Philadelphie. Sam Montembeault qui obtient donc un deuxième départ de suite. C'est lui qui était devant le filet pour la victoire de samedi face aux Sénateurs d'Ottawa. Il avait accordé 3 buts sur 17 lancés. J'ose croire que c'est un genre de stratégie pour essayer d'y redonner confiance, mais franchement, là, je trouve ça déplorable. Comme décision de Martin Saint-Louis. T'as un gardien en ce moment qui est potentiellement le meilleur de la Ligue nationale de hockey en Jakub Dobesch, puis je dis pas que c'est le meilleur gardien tout le temps, là, en ce moment. Puis quand t'as un gardien qui est hot, ben mets-le dans le net. De mettre Montembeault à soir, là, si ça te coûte les 2 points, c'est déplorable. Le Canadien pourrait se réveiller demain au premier rang du classement général de la LNH. T'es mieux de pas à perdre à cause de Montembeault qui va te laisser rentrer 2-3 crotons encore. Là. On n'est pas... tu sais, la Ligue nationale, je comprends qu'on l'aime Montembeault puis que c'est un Québécois puis qu'on aimerait ça qu'on puisse lui donner ben des chances. Là. On n'est pas à rêve d'enfant. De remettre ce gars-là devant le filet après qu'il y a eu une autre mauvaise performance samedi. Ça, on prend ça à cœur, hein? Ça me met pas de bonne humeur. Je trouve ça... Je trouve que c'est spécial comme décision, mais en même temps, d'un autre côté, puis je suis 100% sincère quand je le dis, je souhaite le meilleur à Sam Montembeault, puis j'espère qu'il va être en mesure de se replacer. Mais c'est juste que dans la Ligue nationale de hockey, t'es là pour gagner, puis en ce moment, c'est pas vrai que c'est Sam Montembeault qui te donne les meilleures chances de gagner. Vraiment pas. Puis je trouve ça limite poche en tabarouette pour Jakub Dobesch, qui te fait gagner des matchs à lui seul puis qui se ramasse à regarder 2 games de suite du bout du banc. Là. Martin Saint-Louis est un excellent coach puis il monte depuis qu'il est dans la Ligue nationale, mais là-dessus, il l'échappe. Pascal CV, est-ce que tu as des choses pour me rendre de meilleure humeur?
Ben, écoute, Max, ce que je pourrais faire avec toi, c'est de parler de l'actualité dont personne n'a parlé. Par contre, avant de faire ça, il y a peut-être un petit retour qu'on doit faire sur ce qui est en train de sortir au niveau de la CAQ quand il y a de la grogne au sein de la Coalition Avenir Québec.
Ça fait-tu assez brochet d'eau douce, cette histoire-là?
Laquelle?
De Mme Poulet. Isabelle Poulet, qui annonce ce matin aux alentours de 8h30 qu'elle va faire le point sur son avenir politique à 9h30.
Ce qui est totalement normal et qui arrive de façon assez régulière.
Puis là, ce qui sort, ben, c'est qu'elle va quitter la Coalition Avenir Québec, évidemment.
Elle songerait aussi à quitter, effectivement. Ben, je dis aussi parce que c'est pas la seule.
Ben, puis ce qui est sorti, c'est qu'elle allait le faire. Là. Sa décision était prise, puis à 9h30, elle annonçait qu'elle quittait la Coalition Avenir Québec et qu'entre-temps, mm-hmm. ben là, François Legault, il a dit ben, là, Isabelle, parce que là, Isabelle, on va se parler, là. Isabelle, tu peux pas me faire ça. Et que là, Isabelle Poulet aurait accepté de rencontrer cet après-midi François Legault, puis que là, peut-être, elle va changer d'idée, finalement. La CAQ, es-tu désespérée? Ben oui, la réponse est oui. Oui, la CAQ est désespérée. Hey, ça fait brochet, là.
Ben, l'affaire, c'est que même si l'opération tentait de retenir Isabelle Poulet se faisait dans les brancards, maintenant que c'est sorti au jour, hey, au grand jour... Sens.
Laisse-la partir, tu parais moins mal étant la CAQ en la laissant partir.
L'affaire, c'est que ça s'était passé juste dans les brancards, comme on dit, puis ça s'était passé sous la couverture. Chose qui arrive aussi en passant, un député, un ministre, un élu, peu importe, qui souhaite quitter un parti politique, ça se peut qu'on tente de te convaincre de rester. C'est la même chose que si nous, on décidait de partir, ça se peut que les boss fassent « Ah ben là, t'es-tu certain? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui te rend malheureux? » etc. Ça, c'est totalement normal. Mais l'opération de tenter de la retenir une fois qu'elle est sortie, je sais pas pour vous, le 88-971-1021, mais ça vaut plus, là. En fait, c'est qu'on sait qu'on l'a presque attaché une façon de parler, là, c'est une image pour rester et que c'était pas son choix initial.
Mais en même temps, elle apparaît pas super bien là-dessus. En passant, je la salue, c'est la première fois en 4 ans de mandat presse pour la CAQ que j'entends son nom, là, parce que c'est un nom dont tu te rappelles, puis je suis pas mal certain que je l'avais jamais prononcé. Fait qu'on la salue, mais qu'est-ce que ça dit sur ses convictions à elle, hein? Tu sais, j'imagine qu'elle allait annoncer son départ avec fracas en disant qu'elle était contre la loi 2, puis que ça n'a pas de bon sens, puis que les médecins quittent. Pis... Mais là, oh,
oui,
finalement...
parce qu'elle a fait connaître son mécontentement déjà par rapport à la loi.
Puis là, finalement, François Legault, il demande d'y parler, puis ce qu'on nous dit, c'est que là, elle recommence à réfléchir. La décision était prise, mais là, elle va réfléchir encore.
Qu'est-ce qu'on lui a offert pour qu'elle reste? C'est toujours la question. Hein?
Qu'est-ce qu'il y a à offrir? Il n'y a rien à offrir.
Est-ce l'argent? Est-ce un poste ministériel dans un peut-être gouvernement caquiste peut-être élu? Et là, permettez-moi de laisser ça entre vos mains. Mais quand même. Et moi, ce que je retiens de ça aussi, c'est que c'est la controversée réforme à la rémunération des médecins qui aurait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Mme Poulet. Là, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a peut-être autre chose aussi. Ça, c'est la goutte d'eau. Au sein de la CAQ, rien ne va plus. On s'en doutait, mais on se le fait que confirmer au courant des derniers jours.
Puis quand j'ai parlé à Maïté Blanchette-Vézina la semaine passée, ce qu'elle me disait, c'est qu'il y en a une couple de députés de la CAQ qui l'avaient appelée. Puis ça se passe comment comme député indépendant? Puis c'est comment? Puis c'est quoi le processus? Mm-hmm. Puis tu sais, c'est informé. Fait que ça veut dire qu'il y en a une couple au sein de la CAQ. Puis on l'a vu ce matin, c'est le Journal de Québec qui nous rapportait que vendredi, il y a eu une réunion d'urgence des députés après la démission de Lionel Carman, puis qu'il y en a 9 qui ont pris la parole pour dire que ça n'avait pas de bon sens, que Christian Dubé n'était pas présent à cette rencontre-là, puis qu'on a comme coupé court à la rencontre parce qu'il y en aurait eu plus que 9.
Bien, assurément, parce que je crois que, là, c'est ma prétention de croire, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui voulaient se faire expliquer un petit peu plus la loi pour la défendre et sinon être en accord avec ce projet de loi 2-là. Puis en n'étant pas présent, c'est le porte-parole, c'est le porte-étendard de tout ça. Peut-être qu'il y en a qui se sont dit, bien là, moi, j'attendais cette journée-là, plus que vous extensionnez, moins je suis en accord.
Puis en même temps, les députés qui se plaignent de la loi puis qui disent qu'ils sont pas contents de la loi mais qui ont voté pour, je comprends que c'est la façon de faire en politique, que tu votes pour tout ce que ton parti présente, là.
Moi, là-dessus, j'ai plus de nuances et puis je te les explique. En fait, c'est que si tu as voté pour en te faisant dire... En ce moment-là, c'est que vous ne la comprenez pas, on va vous l'expliquer. Faites-nous confiance, c'est une bonne chose. Puis si, par exemple, il y a des médecins qui étaient en accord, qui avaient été... Tu sais, ceux qui étaient en désaccord ou qui challengeaient, de ce qu'on comprend, certains ont été écartés, là. Alors, s'ils restaient au sein du dit conseil, du groupe qui a travaillé, des gens qui en étaient convaincus avant même que ça sorte puis que ça touche automatiquement aux médecins, que eux l'interprètent comme ils souhaitent puis que là, finalement, le mécontentement grandisse... Ça se peut que tu aies voté pour en disant « je fais confiance à mon parti ». On me dit qu'on va me l'expliquer, puis c'est une bonne chose. Puis à un moment donné, lancé dans la foule, après, ça devient avec un nouveau vent. Ça se peut que ça se soit passé comme ça. C'est la nuance que j'applique. Par contre, quand on parle de comment ça se passe à l'intérieur même du parti, au courant des dernières années, depuis la réélection de François Legault, en incluant Lionel Carman, qui est un ministre très, très apprécié, c'est un personnage politique assez apprécié, qui est challengeant, on ajoute Joël Boutin, Pierre Fitzgibbon, Youri Chassin, André Laforêt, Pierre Dufour, Maïté Blanchette-Vézina, qui ont quitté par eux-mêmes la coalition Avenir Québec.
Dufour s'est fait mettre dehors.
Puis je pense que pour Pierre Fitzgibbon, on lui a demandé aussi de se quitter. Mais tu comprends que ce sont des grandes têtes politiques qui ont fait de l'air.
Bref, on salue Mme Poulet. De quoi tu venais me parler aujourd'hui, Pascal?
Ben, je voulais changer de ton un peu parce que moi, j'ai trouvé une couple de nouvelles qui devraient ou pas faire l'actualité. C'est à vous de choisir, mais si ça ne s'est pas rendu à vos oreilles, d'après moi. La première, c'est une tondeuse robot qui a pris la poudre d'escampette. Elle était sur un terrain, puis finalement, elle a réussi à s'échapper, à arrêter sa tonte sur son territoire, puis commencer à se promener dans les rues à la recherche d'une petite touffe de gazon. On l'a retrouvée en pleine rue, très, très loin. Est-ce que c'est l'envahissement des robots, peut-être?
Ça commence de même.
Mais ça pourrait commencer de même. Il y a un cultivateur aussi qui a vu des voleurs, en fait, voler 150 tonnes de patates sur son terrain. Là, tu dis, pas vrai. Ben oui, c'est vrai. Puis pourquoi? Parce qu'il y a eu une fausse rumeur. Donc, abat les réseaux sociaux. Fausse rumeur sur les réseaux sociaux comme quoi il les donnait, ces patates. 150 tonnes, mon homme, ça peut te mettre dans la marde. Puis c'est ce qui est arrivé pour cet agriculteur-là, polonais, c'est pas ici, quand même, qui dit vivre un véritable cauchemar. Parce qu'effectivement, des gens qui ont dit « Hey, ce fermier-là, il nous donne gratuitement sa cargaison de patates. » C'est un homme de 68 ans, je vais vous dire une affaire.
Un pauvre gars.
C'est ça. Je le dis en riant un peu, mais je ris pas pantoute. Parce que je me mets à penser à ce pauvre homme-là qui offre sa patate depuis des années, qui a 68 ans, puis qui se fait tout voler dans le sud-est de la Pologne. Écoute, juste parce que des gens, en pensant bien faire parce qu'on supposait les donner sur une rumeur des réseaux sociaux, a fait en sorte que ces champs soient vides. Écoute, là, quiconque les voulait était invité à venir piller son champ. Pauvre homme, quand même.
Fait que là, alors, sa récolte a fait patate.
Fake news. Fake news, à toujours vérifier, hein, même quand on vous donne des patates. La Corée du Sud aussi, tu le sais, hein, Donald Trump est allé les visiter, en fait, c'est coréen. Et on l'a reçu tel un roi. On a enfin su ce dont tout le monde se posait la question. Qu'est-ce qu'il a mangé en Corée du Sud?
Puis?
Ça a l'air qu'on lui a fait des mini-galettes de bœuf avec du ketchup. Yeah. Ça a l'air qu'on a accueilli Donald Trump avec plein de façons de lui faire reconnaître à quel point il était grand et magnifique, dont le choix de la cravate, en fait, du président de la Corée du Sud. En fait, on a pris une cravate or pour souligner, refléter le goût du président Trump pour l'or, capturer l'avenir doré de l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis. Donc, on a choisi même de manger en étant habillé d'une façon présidentielle pour Donald Trump. Mais il faut savoir que c'est pas tout. Hein? Alors, tu avais du bœuf américain. C'est un plateau coréen, on appelle de sincérité de ce côté-là. Il y avait du riz local, pourquoi pas une petite touche locale, mon Maxime. De la pâte de soya, c'est sûr. Poisson grillé, il y avait un glaçage. Ketchup et gochujang, si tu me demandes c'est quoi, ben je vais te dire que c'est une pâte de piment rouge. Et c'était le repas principal. Puis on n'est pas arrêté là. Hein? On n'a pas arrêté au repas.
Y a-t-il un dessert?
Assurément. Et on l'a appelé le dessert du pacificateur. Donc, c'était juste un brownies avec de l'or aussi dessus. Fait qu'on s'est dit, ben de l'or partout, de l'or encore. On sait, hein, ça, là, ça perd pas. Ça perd pas à bourse.
Ça gonfle de l'ego de manger de l'or.
Puis je terminerai avec une nouvelle dont on se fout carrément, mais qui a enflammé une partie du web. Et honnêtement, je pense que c'est la nouvelle la plus stupide que j'ai entendu du dernier mois. Dans les podcasts, on dit ce qu'on veut. Et c'est ce que Diplo a fait, l'artiste Diplo.
Oui, je pense que je sais où tu t'en vas.
Diplo, lui, il a mis ses lunettes soleil, puis il s'est dit, je vais aller dire une couple de niaiserie au Smart Girl Dumb Question. C'est un balado, et vous savez, c'est un DJ, c'est un producteur, puis là, il a fait des déclarations choc. L'affaire, c'est qu'il l'a fait avec un sérieux, tel qu'on n'est pas sûr si c'est vrai ou si c'est faux. À vous de choisir, mais il a dit qu'il avait fréquenté Katy Perry.
Et?
Justin Trudeau.
Ouais, c'est ça.
Il les a dissociés, il a dit, moi, j'ai goûté à un, puis j'ai goûté à l'autre. Ça n'a pas fait, maintenant, ils sont ensemble.
Hey.
Tout pour alimenter ce qui était autour de Justin Trudeau.
Merci beaucoup, Pascal.
Ça me fait plaisir pour cette nouvelle la plus stupide du mois.
On t'écoute dans On en jase avec Jeff Fortin et Antonine Iacarini. Après ça, c'est Gravel dans le retour. Sans Gravel, c'est Audrey qui est là avec Véro et Gab Marino. Marceau le soir par la suite. Et nous, on se retrouve demain dans Marceau le matin dès 6h et le Point de Max dès 10h. Merci d'avoir été là. Puis allez profiter du soleil qui se couche à 4h.
Mot d'ordre des auditeurs, on lâche pas la patate.
Ouais. Ton jeu de mots aussi a fait patate.
C'est pas moi, ce sont les auditeurs. Le Point Max.